lights out. And away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Vettel. Ready ahead to Red Bull. Fernando Alonso goes around the outside. Sebastian Vettel has already lost places, getting caught in no man's land on the inside. Hamilton squirms away from Vettel and gets it right for the rest of challenging Sebastian Vettel. Now as we find out more, get on the rest of Potter towards the speed of the line. It was a cautious start for the championship unit.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du...
Non, je te dis, attends. Non, moi j'en ai marre, c'est tout le temps toi qui es numéro 1 et moi numéro 2. Des fois j'ai envie
de changer. Attends, on a des consignes.
Oui, tu sais où je voulais quand même tes consignes.
On a des consignes, non. Tu me fous de la merde. Hein.
Tout à fait, c'est la guerre maintenant, je te dis. Il y aura un avant et un après la Malaisie.
C'est pas bien, quand on est sérieux dans son travail, on respecte les consignes.
J'en ai rien à foutre, je suis un rebelle. Non, sincèrement, chers auditeurs, Shinji, je m'excuse. Je n'ai pas pris la pleine mesure de ce que je faisais. Je voulais pas faire du mal. Mais voilà, je m'excuse, Shinji. Je te présente formellement mes excuses. Mais je recommencerai pour le SAV du
coup. Ah, mais tu continues. T'as voulu doubler. Maintenant, t'assumes. Tu vas sur le podium. Tu vas faire la gueule sur le podium en brandissant le trophée. Hein. Tu te démerdes. Donc oui, on va revenir sur ce Grand Prix de Malaisie si particulier, à l'ambiance si chaleureuse. Bien sûr, vous aurez reconnu Dino qui a essayé de me doubler, n'a pas voulu respecter les consignes. Et pour un fan de Ferrari, quand même, c'est un comble. Mais nous ne sommes pas seuls comme d'habitude, Dino.
Non, c'est vrai, nous ne sommes pas seuls.
Là, c'est toi qui es dans la merde. Eh bien non, je ne suis pas dans la merde, puisque je vais présenter notre invité. Bonsoir, Louis.
Bonsoir.
Comme d'habitude, première question traditionnelle.
Allez.
Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix?
Bah, c'était pas un Grand Prix qui était super passionnant sur la piste. Là où c'était vraiment intéressant, c'était dans les coulisses, je pense.
Jusqu'au début du deuxième tour, c'était intéressant, puis après on s'est fait chier, quoi. Enfin... Normalement, qu'il y a les pilotes Red Bull, quoi.
Il s'est passé plein de choses, dans les stands, dans les radios.
Ah oui.
Non, c'était chouette, et puis il y a eu ce bouquet final, hein, c'est parce que il y en a deux en plus. Un déjà, ça aurait été bien, mais deux, waouh.
Ouais, mais ce qui veut dire, c'est qu'on en retient surtout un. C'est-à-dire que c'est un peu
oui,
ça.
Oui.
Que c'est un peu un Grand Prix. Il a tellement fini en apothéose qu'on en oublie un petit peu tout ce qui a pu se passer avant. Alors que c'est vrai que le Grand Prix n'était pas inintéressant.
Non.
Pas non plus hyper. Il n'était pas non plus hyper passionnant, mais il n'était pas inintéressant. Et c'est vrai que ça a été quand même un Grand Prix où il y a eu beaucoup de faits inhabituels.
Et ce podium, wow.
Magnifique, magique podium.
Je crois qu'on n'a jamais vu un podium pareil.
Ah, j'ai jamais
même
vu ça.
Même Fernando Alonso voulait y être.
Ah oui, il a tweeté.
Sinon, autre petite question habituelle, cette année, faut bien qu'on la pose, Louis. Donc tu as vu le Grand Prix, de quelle façon as-tu pu voir ce Grand Prix?
Je me suis acheté une carte prépayée Canal.
Par Canal.
Ouais. Et j'étais un peu déçu finalement du contenu. Je m'amusais vraiment à beaucoup mieux. Ouais. Par rapport à TF1, bon, les apports, bon, il y a Franck Montagny, je trouve qu'il est très bien. Il y a les commentateurs là, Villeneuve et Febro, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ouais, ils sont bien, je les trouve bien, ils font une bonne équipe. Après, Thomas Seneca, je le trouve vraiment un fade et pas très naturel. On a l'impression qu'il récite un texte.
C'est le passeur de plat.
Ouais, c'est le passeur de plat, ouais, tout à fait.
Ouais, mais par exemple, quand tu compares aux Anglais, bon, tu vois que les mecs s'ils connaissent un minimum, quoi.
C'est aussi le temps que ça se rôde et compagnie, et que puis c'est pas la même télévision aussi, hein, faut pas oublier, c'est quand même la culture anglo-saxonne et la culture française sont quand même très très différentes.
Mais aussi, j'ai été très déçu par l'après Grand Prix. Je pensais vraiment que ça allait être plus fourni. On a eu juste de l'interview de Vergne et Grosjean, je crois, et ça s'est arrêté là. Et j'ai pas trop aimé aussi quand il interviewait Toto Wolff là pendant la
série. Pendant l'hymne, c'était pas top.
Ouais.
Après, je sais pas, est-ce que c'est le fait que ça soit bon des horaires particuliers? On verra
après, ouais, il y aura peut-être des trucs un peu plus fournis.
C'est vrai qu'il y a un truc moi qui m'a fait tiquer les deux fois, c'est que oui, on a les interviews en extérieur, pourquoi on n'a pas la conférence de presse après?
Bah, ils font déjà le podium, ça serait doublon.
Ouais. Ils la font toujours la conférence de presse.
Oui.
Ah ouais.
Ils ont même récupéré une table cette année. Et donc messieurs, ce week-end, ce dimanche, nous étions le 24 mars.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et cette semaine, le chiffre est le chiffre 28.
Ça a aucun rapport avec la Formule 1.
Ça serait très capillotracté.
Voilà, de toute façon, dans cette rubrique-là, il n'y a jamais de rapport avec la F1.
Non, mais le pire, c'est qu'on peut en trouver un, mais ne partez
pas
là-dessus.
Oui, enfin, si c'est le même que la semaine dernière, parce qu'en fait, le symbole de la pile, c'est celui du Kers en Formule 1, c'est pas vraiment nous donner un indice, Edgy.
C'est pour ça que je vous dis, ne partez pas là-dessus.
Alors, c'est une unité de longueur?
Non.
Non.
Est-ce que c'est une unité?
Non.
Non.
Un âge?
Non.
Donc c'est un numéro.
Non, c'est 28 quelque chose.
Ah, donc c'est bien une unité de quelque chose.
Ah, je pensais que c'était en unité de mesure, mais ouais. Non, c'est 28 quelque chose.
Donc c'est 28 objets.
Où est-ce?
28 objets.
Objets manufacturés.
Peux-tu préciser manufacturé?
Bah, fait par la main.
Non.
Fait par des machines, alors.
Entre autres.
Mais bah, c'est manufacturé, je dis, c'est bon.
C'est français?
Non.
Donc du coup, ça a été inventé un 24 mars.
Oui, on peut dire ça. Inventé ne serait pas le bon terme.
Ça a été découvert.
Non plus.
Est-ce que c'est quelque chose qui a été créé par inadvertance, j'ai envie de dire?
Non.
Non.
Les 28 ne sont pas arrivés le 24 mars. Quelque chose qui a commencé le 24 mars qui a fait 28 choses.
Ça a été inventé dans ce siècle? Enfin, c'est
au 20e.
20e.
20e. C'est un objet de... Ce sont des objets du quotidien?
Ce n'est pas un objet du quotidien, ni un objet.
Ah merde.
Un truc naturel? Non, on a dit que c'était...
Oui.
Naturel.
Donc, attends, c'est quelqu'un?
C'est quelqu'un.
Qui est... Les 28, c'est quelqu'un?
Non.
Ah, c'est quelqu'un qui est né avant un 24 mars, qui est mort un 24 mars,
voilà.
Et qui a fait 28 choses.
Exactement.
Et si on trouve ces choses, ça va vraiment nous aider. C'est pour ça qu'on le connaît.
Oui, je dirais que vous ne le connaissez pas pour les 28, mais pour un certain nombre de ces 28.
C'est un sportif?
Ce n'est pas un sportif. Quoique sportif, mais partez pas sur sportif.
Un brocantier?
Non, ce n'est pas lui la brocante.
C'est Hercule?
Non.
Les 28 travaux d'Hercule. Oui, parce que
c'est au 20e siècle.
En rajouté.
Plus,
ah ouais, c'est au 20e siècle.
Un économiste?
Non. Je peux vous dire la date, c'était... Lui est né le 24 mars 1930.
30.
C'est un auteur?
Non.
Un chanteur?
Non.
Un réalisateur?
28 films?
Non, par contre c'est bien 28 films.
Ah. Et il est français?
Non.
Américain?
Américain.
C'est un scénariste?
Non.
George Lucas?
Non, c'est un acteur.
Ah, c'est un acteur.
Il est mort?
C'est oui. Bien. Ah non, Gigi, il nous répond même aux questions qu'on pose pas. Il nous donne la date de naissance, il nous donne le métier du mec, il fait tout ça. Vas-y, Gigi, donne-nous la réponse.
Mais non, je vous donne des petites pièces, parce que vous avez avancé.
Donc c'est un acteur qui est né en 1930. Et qui est mort quand?
En 1980.
Est-ce qu'il comment a joué un... Est-ce qu'il a joué un rôle égyptien?
Non.
C'est
non.
Pas un blond rebelle?
Oui, on peut dire.
Ah, je sais comment il s'appelle. Ah, je l'ai plus.
C'est pas Yul Brynner?
Non.
Ce n'est pas Yul Brynner. Ah. Mais tu chauffes.
Ah, attends, c'est pas Yul Brynner, c'est...
Ah, je sais,
c'est quelqu'un qui a joué dans le film Les Dix Commandements?
Pas dans Les Dix Commandements. C'est pas Charlton Heston. Lui, c'est, je sens, il a le nom sur le bout de la langue.
Il est sur le bout de la langue.
La langue.
80. Est-ce qu'il a remporté un Oscar?
James Dean.
Ah non.
Ah non, j'ai dit, il est mort en 55.
Ah. Bon.
Ou 56.
Ah ouais.
Mais
il a fait vraiment des films qui sont restés ancrés dans la mémoire,
ah oui,
vraiment.
Ah oui.
Ah ouais.
Il y a des films qui sont considérés cultes par notre génération, c'est-à-dire par les gens qui ont 20-30 ans.
Oui, il faut être un spécialiste du ciné pour ça.
Faut pas être un spécialiste du cinéma, après, culte pour notre génération, je sais pas. Mais culte, oui.
Son succès, c'était pendant les années 50, 60.
Alors, plutôt les années 60-70.
Voilà.
Il a joué plutôt dans les films de guerre?
Non, mais il en a fait.
Dans des westerns?
Oui,
ah.
Des westerns, oui.
Est-ce qu'il a joué dans du Sergio Leone?
Non.
Non, donc c'est pas ce que je pense.
Western Spaghetti?
Non.
Non.
Donc c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît?
Oh oui, j'ai même envie de dire, on le connaît très bien ici.
En France?
Très bien ici.
Non.
Quand tu dis ici, c'est en France ou ici dans le SAV?
Ah ah!
Donc c'est ici dans le SAV.
Il n'a pas joué dans des films de Grand Prix?
Si.
Ah. Ah bah
McQueen.
Attends.
C'est Steve McQueen, merde.
J'ai gagné.
À tout l'honneur.
C'est bon.
C'est pour ça que quand tu disais blond et tout ça, je pensais que t'avais justement le nom de Steve McQueen.
Non, je pensais
et
à
oui,
James Dean, je sais pas pourquoi.
Steve McQueen est né le 24 mars 1930, il aurait eu 83 ans.
Ouais.
Et malheureusement, il nous a quittés dans les années 80. Là, quand on va revenir sur sa carrière, vous allez voir que tout, comme d'habitude, toutes les réponses que j'ai données s'emboîtent, puisqu'en effet, donc, il a tourné dans 28 films entre 1953 et 1980. Alors, Il est surtout connu à partir des années 60, dans le sens où, alors, dès 53, il fait des films. Son premier film s'appelait Girl on the Run, où il a juste fait de la figuration. Il fait quelques films, mais il est pas encore très connu, même si en 58, il tourne dans The Blob, le film d'horreur originel. Il a eu son petit succès à l'époque. Il commence à être connu en 58, mais pas par le cinéma, par la télévision, avec Au nom de la loi, le fameux Josh Randall, le chasseur de primes.
Ah oui.
Voilà.
Ça me dit rien du tout.
Fais comme moi, fais, ah ouais, le fameux.
Mais, oui. ce rôle de, c'est une série western, lui permet de jouer dans son premier grand rôle, Les Sept Mercenaires, avec Yul Brynner.
Putain. Merde.
Le western, pas vraiment, plus, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas à mettre sur la voie.
Ou d'ailleurs, sur le tournage, il s'entendait pas très bien avec Yul Brynner, qui était la star, lui, du film.
Bah attends, Yul Brynner, c'est Yul Brynner, quoi.
Et donc, si je vous dis La Grande Évasion en 1963,
oui.
La Canonnière du Yangtze en 66, L'Affaire Thomas Crown en 68,
ah ouais,
je connais
Bullitt
tout.
Bullitt en 1968. Ouais. Donc c'est pour ça, vraiment le cœur de sa carrière, on peut dire, c'est 60. Dans les années 70, en 71, il y a Le Mans, ce fameux film,
ouais.
Alors qui est mythique aujourd'hui, qui a été très compliqué à faire.
Un film sans dialogue.
Qui n'a pas de scénario ouais. non plus, mais bon, on s'en fout un peu. Il y a aussi eu Guet-apens en 72. Alors plus, je crois qu'il est passé lundi soir, hier, Arte, sur Arte. Papillon en 73. La Tour Infernale en 74. Il faut savoir que quand il tourne...
Oui, avec Eric et Ramzy.
Non, l'autre. Avec Paul Newman et voilà. Lorsqu'il tourne, il est alors l'acteur le mieux payé au monde. C'est-à-dire que son cachet, il était de 12 millions de dollars. 12 millions de dollars de 74. Hein, plus 7% sur les recettes.
Ah ouais,
ah, ça c'est intéressant ça.
Ah ouais, quand même.
C'est Kimi Raikkonen, mec. Il a déjà un contrat qui vaut de l'or, mais en plus il y a des bonus.
Et donc c'est paradoxalement son dernier très grand rôle, puisque après il ne tourne que 3 films entre 78 et 80 parce qu'il y a la maladie. Pour dire qu'il a vécu à 100 à l'heure et pas que sur des pistes. Oui, la drogue, l'alcool, les meufs, lui il a tout fait, hein. La totale. C'est pour ça que quand il disait qu'il était sportif, parce que faut pas oublier qu'il a fait de la compétition. En 70, il a participé aux 12 heures de Sebring avec Peter Revson. Lui-même en plus a roulé avec une jambe dans le plâtre et ils ont fini deuxième de la course. Et premier de leur catégorie.
Putain, mais aujourd'hui, le mec, il a un pansement sur un orteil. On sait pas rouler. Allez,
vas-y.
T'as un plâtre. Oh, c'est pas grave.
Pas grave,
il est pas jusqu'à la taille.
Vas-y.
Bon, ça va.
Et avant d'être un fan de bagnole, il est aussi un énorme fan de moto. Hein, d'ailleurs, la fameuse scène de La Grande Évasion avec la moto, il paraît que c'est lui qui l'a initié. Et il s'est pas fait doubler, hein, parce qu'il s'en fout. Il paraît qu'à sa mort, il avait une collection d'une centaine de motos.
Voilà.
Ah, et côté voiture, il avait quand même une Porsche 917, une Porsche 908, la Ferrari 512, tout ça venait du Mans. D'ailleurs, au passage, pour le film Le Mans, il souhaitait participer aux 24 heures, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que les producteurs n'ont pas voulu. Si vous voyez le Blu-ray du film et le making of, c'est un film qui a été très compliqué à faire, qui a pas eu de scénario, ça a été très compliqué entre les réalisateurs et Steve McQueen qui était le producteur, donc c'était un peu lui le grand Manitou. En plus, le film finalement n'a pas très bien marché, mais bon,
un peu comme Grand Prix, non?
Grand Prix a eu plus de succès quand même, et je crois même qu'il a eu des trophées. Mais alors Grand Prix, lui, ils ont pu tourner pendant des vraies courses. Le Mans, voilà, finalement, tout est reconstitué, quoi. Alors sinon, ouais. Steve McQueen avait aussi une Ferrari 250 Lusso Berlinetta de 1963, une Jaguar D-Type XKSS, une Porsche 356 Speedster, et par contre, il a jamais pu posséder Ford Mustang GT390 de Bullitt. Apparemment, il y avait deux modèles. Le premier, il était trop en sale état, donc on pouvait plus rouler avec. Et le deuxième, en fait, le propriétaire n'a jamais voulu la vendre, quel que soit le prix. Et alors, pour l'anecdote, parce que bon, déjà, sa filmographie, elle est quand même bien costaud, mais alors quand on regarde les films qu'il a pas pu faire ou qu'il a refusé, il aurait pu jouer, il a failli jouer pour X raisons, il a pas pu jouer dans ses films. Dans la première version de Ocean's Eleven, qui s'appelle L'Inconnu de Las Vegas en français,
mais
il aurait, super il film, aurait pu jouer dans Butch Cassidy et le Kid. Dans Apocalypse Now, le rôle de Brando, on lui a proposé, apparemment il demandait trop.
J'aurais peut-être aimé le film.
Coppola l'a dit, bon, on le fera sans toi. L'inspecteur Harry, Un pont trop loin.
Je connais pas.
Attends, il aurait pu jouer l'inspecteur Harry.
On lui a proposé l'inspecteur Harry.
Ah,
un pont trop loin. French Connection, qu'apparemment qu'il a pas voulu parce qu'il voulait pas jouer à un autre film de flic. Dans Grand Prix, Frankenheimer voulait Steve McQueen. Le problème pour l'anecdote, c'est qu'en fait,
il est pas pilote de Formule 1.
Non, mais il est pilote, si tu veux, donc ça se savait. Il aurait pu... En même temps, les autres acteurs n'étaient pas plus pilotes de F1.
Il a besoin d'avoir des vrais pilotes.
Ah, ouais. Yves Montand n'était pas pilote de F1 non plus.
Oh, méfie-toi.
Ah, il paraît que c'était parmi les plus nuls. Hein. Et apparemment, il a envoyé un des producteurs, et là, en fait, la rencontre s'est très très mal passée, ce qui fait qu'il n'a pas tourné dans Grand Prix.
Bah oui, parce qu'il voulait le numéro... Il voulait le numéro 1, et là, il y avait Weber, il voulait pas. Donc il a dit, les gars, quand même,
multi 21.
Il a été un des premiers choix de Spielberg pour Rencontre du Troisième Type.
C'est quand t'as E.T.
Non, pas pour E.T. Ça aurait été un peu tard. Pour Rencontre du Troisième Type.
Et mais... Richard Dreyfuss, c'est vrai que dans le film, il a un air de ressemblance, je trouve.
Voilà, et apparemment, il a refusé parce que il était pas capable, en fait, de pleurer à la demande, entre guillemets. Hein. Voilà.
Ah ouais. Donc, attends, oh.
Dans Spielberg lui a dit, écoute, Steve, c'est pas grave. Si tu veux vraiment, on coupe les scènes, on met pas de scène où tu pleures. Et Steve McQueen lui a dit, oui, mais c'est con, parce que c'est les meilleures scènes du script.
C'était un mec sympa, en tout cas.
Il a aussi failli jouer, alors, c'était encore qu'un projet dans Bodyguard, parce que certes, le film a été tourné dans les années 90, mais c'était un vieux projet, et une des premières versions, c'était au milieu des années 70, avec Diana Ross. Donc il aurait pu jouer le garde du corps. Et petite anecdote finale, il était intéressé pour le rôle de Rambo.
De Yoda.
Non, de Rambo.
De Rambo.
Oui. Le titre américain d'ailleurs c'est First Blood. Et en fait c'est un roman qui a été publié en 72. Et il était intéressé par ce rôle-là. Mais apparemment les producteurs ils voulaient pas, et vraiment visiblement par rapport à son âge.
Ouais.
Vous imaginez Steve McQueen dans le rôle de Rambo, même dans les films qu'il a pas fait, enfin il a refusé des trucs méga classe quoi. Et donc voilà, malheureusement, il aurait eu 83 ans, hein. Peut-être qu'il ferait encore des films, ou pas. Mais bon, comme je l'ai dit, il a vécu sa vie à 100 à l'heure, et sa vie l'a un peu rattrapé. Et donc, parce qu'il est décédé d'un cancer des poumons. Et alors, en F1? Eh bien, en F1.
Oui, c'est vrai.
Le 24 mars, c'est aussi une grande date.
L'anniversaire de Senna?
Ah non, il est né le 21. Hein. Donc c'était quasiment son anniversaire. Et en 91, il s'est offert un magnifique anniversaire puisque c'était le Grand Prix du Brésil. À l'époque, c'était en début de saison.
Ah bah oui.
Et c'est sa fameuse.
Il a gagné.
Voilà, c'est sa. Il n'avait jamais gagné au Brésil.
C'est Prost qui gagnait tout
le temps.
Voilà,
c'est Prost qui gagnait tout le temps. Ouais. Et là, il a vraiment tout donné pour gagner. Hein, puisque, on le sait, il avait un rapport de boîte quand même qui était foutu. Et enfin, on a tous vu l'image. Enfin, elle est à voir. C'est le moment où on lui dit « Tu as gagné !» et il crie. Et il y a à la fois de la joie, mais aussi de la douleur. Il a fallu que la voiture médicale l'emmène au podium. Il a fallu l'aider pour qu'il soulève le trophée. C'est juste incroyable, quoi.
Ouais, c'est fou. Il y avait tel l'année dernière où il y a deux ans il s'était comparé à Senna. En fait, il lui manquait un rapport, c'est quand Weber gagne en 2011.
Oui.
Et bon, il se compare.
Ça n'arrive jamais.
Non, genre il a un petit peu mal au coude. Je suis Senna.
Enfin, déjà un podium marquant. Sans doute plus que celui de dimanche. Même si on sait jamais, il sera peut-être marquant, il rentrera peut-être dans l'histoire, on ne sait pas. En tout cas, bravo Louis, parce que c'est pas tous les jours que les invités arrivent à battre Dean.
Ouais.
Ça a été sur le film.
En plus, je veux dire, sur du cinéma, j'étais quand même un petit peu en travers.
Là, ouais. Moi, je pensais que ça allait passer comme une lettre à la poste.
Moi, je m'y connais rien en cinéma. Hein.
Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride, Dino. Et maintenant, on va passer au quart d'heure de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Et donc, tu le sais, Louis, hein, c'est ton heure de gloire. C'est le moment où tu vas parler et où Chini va enfin fermer sa gueule parce que, mine de rien, il a été long. Parce que, il est pas long quand
c'est
je gagne,
mais
quand je perds, faut que c'est un peu long. Et donc, tu connais le principe, hein, ça commence par quoi?
Pour compte, c'est ça?
Ah, ça, dès le départ, t'es au bord d'avoir un gage.
Ah. Qu'on ne donne jamais, mais.
Heureusement, on ne donne pas de gage, mais t'es au bord d'avoir un gage. C'est le pour, pas pour. Alors, on rappelle vite fait le principe du pour, pas pour. Je vais te faire 10 propositions autour de l'actu. À chaque fois, tu me diras si tu es pour ou pas pour.
Okay.
Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 propositions de ton choix.
D'accord.
Quand tu es prêt, tu me dis je suis prêt.
Vas-y, envoie la sauce.
Pour ou pas pour la fusion Marussia-Caterham?
Contre, pas pour.
T'as deux gages, normalement. Pour ou pas pour la F1 sur Canal+.
Pour.
Pour ou pas pour les contrôles antidopage en Formule 1?
Pour.
Pour ou pas pour des moteurs high-tech en 2014?
Pas pour.
Pour ou pas pour Jenson Button, directeur de l'association des pilotes avec De La Rosa et Vettel?
Pas pour.
Pour ou pas pour l'abandon des amendes pour pénaliser les excès de vitesse dans la voie des stands?
Pas pour.
Pour ou pas pour Hungry Heidi?
Pas pour.
Pour ou pas pour le retour de Nick Heidfeld en Formule 1?
Ah, pas pour.
Pour ou pas pour Vijay Mallya?
Pas pour.
Et putain, bah, c'était pas pour beaucoup. Et enfin, pour ou pas pour aller de Sepang à Shanghai en faisant tourner des assiettes sur des bâtons et devoir repartir de Sepang à chaque fois que tu fais tomber une assiette?
C'est tentant, mais pas pour.
Donc ça nous fait 8 pas pour 2 pour, tu es pour la F1 sur Canal+, et tu es pour les contrôles antidopage en Formule 1.
Ouais, alors...
Sur donc tu as le choix de revenir sur 3 sujets de ton choix.
La F1 sur Canal.
Ouais.
Sur TF1, le problème c'est que bon, avec les 3 zozos, enfin, ils sont bien, hein. Malbranche était bien, mais avec un Lafitte vieillissant et un Moncey, bon... qui avait comme contact, enfin SMS, pratiquement que des infos Mercedes inutiles.
Oui.
Et Brogniart qui était pas génial, et les Grands Prix qui étaient un peu sous-exploités, bon, il fallait que ça change, c'était une bonne chose. Et Canal, bon, ben, moi j'avais ce week-end, moi je suis pour, parce que je pense que c'est le seul en France, c'est la seule chaîne en France qui puisse vraiment traiter la F1 comme il se doit. J'étais un peu déçu, mais bon, c'est le début, vous avez raison, et je pense que j'espère qu'en Europe, il y aura quand même quelque chose de plus fourni, notamment pour les après Grand Prix. Après, pour les pré-Grand Prix, je trouve ça bien mieux. J'aime bien le petit truc là avec Franck Montagny là qui interroge les pilotes pour quand il fait le tour de piste là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant, un peu comme les Anglais, c'est pas mal. D'ailleurs, il faut en profiter parce qu'on a quatre pilotes français en F1 et ça serait con de pas en profiter. Et, ouais. C'est une bonne chose. Et non, ben voilà, les F1 sur Canal, parce que c'est les seuls en France qui puissent la traiter de manière, on va comme les mérites, quoi. C'est la Formule 1, ça doit être clinquant, ça doit être la classe, et je pense qu'il y a que le Canal qui peut faire ça objectivement aujourd'hui en France. Après, sur quoi je voulais dire pour Heidfeld. Alors
oui. Alors toi, t'es pas pour.
Ah non, pas pour du tout. Alors.
Mais qui est pour?
Ouais. Ça, faut vraiment être un malade, je crois, pour être pour.
Chedji, t'es pour toi?
Ah, pas du tout.
Non.
Bah voilà, bah personne n'est pour. Alors, on est trois, pas pour. Donc personne n'est pour.
Il va y avoir 2-3 Allemands, Munchen là-bas, tu dois être pour. Mais non, mais moi, pour moi, la Formule 1, c'est surtout, il faut avoir sa personnalité, il faut se dégager par rapport aux autres. Et c'est d'ailleurs ce qui me dérange par rapport à Vettel, parce que je trouve qu'il ressemble un peu trop à Schumacher dans bien des aspects. Mais oui, Heidfeld, non.
Bon, ça va pas être ce soir.
Heidfeld.
Oh, je vais te casser la gueule au bout de 2 heures de
non.
Tu touches pas à Sébastien.
Non, mais, ouais, non, Heidfeld, je pense qu'il était vraiment, c'est un has-been et, c'est l'éternel espoir. Il avait du talent quand il a commencé, mais bon, on avait vite vu qu'il avait pas la carrure et le charisme pour être un champion du monde. Et bon, je crois que, franchement, à qui il manque aujourd'hui? Personne.
De toute façon, c'est lui qui déclare la F1 me manque. Bon, la réponse est dans la question, c'est... quoi. Oui, si la F1 te manque, ouais. C'est que déjà la Formule 1 ne veut pas ouais, toi, ouais. Quoi. Donc.
C'est sûr.
Et enfin, un troisième sujet sur lequel tu voudrais revenir.
Il y avait quoi déjà? Vijay Mallya. Non, j'ai pas trop compris. Bon, déjà, il y a pas mal de problèmes avec le fils indien, je crois, c'est ça?
Oui.
Oui.
Quelqu'un.
Donc, il y a une compagnie aérienne qui coule. Et...
Bah, qui n'existe plus, de toute façon.
Ah ouais,
enfin, Kingfisher n'a plus sa licence. Enfin, il peut la redemander dans l'année qui vient, mais aujourd'hui, ils ont plus leur licence, donc...
Mais ouais, alors, Force India, c'est une équipe... Moi, quand on est une équipe de milieu de tableau, pour moi, ce qu'on doit viser à moyen terme, c'est de gagner. C'est, en plus, c'est Force India, c'est Vijay Mallya, c'est clinquant, tout ça, tout ce qu'on veut. C'est, tu dois te projeter vers l'avenir en te disant, je vais gagner. Et pour moi, je vais revenir sur le choix de pilote qu'ils ont fait. Reprendre un mec qu'ils ont viré un an plus tôt et qui a démontré au cours des 5 années qu'il était en Formule 1, qu'il aurait jamais le truc qu'il faut pour gagner, même si il faut le dire, il a fait un bon début de saison.
Il a aussi toujours eu qu'une Force India. C'était, enfin, les 5 années où il a été chez Force India, oui. Et Spyker, pas non plus dire qu'il avait la voiture,
ouais, mais,
pour gagner.
Mais quand tu vois par exemple Hülkenberg, tu vois que lui, il est au-dessus du lot. Tu vois, c'est un mec qui aurait pu gagner.
Oui, mais Hülkenberg, pour le moment, il a jamais montré qu'il pouvait gagner. Enfin, l'année dernière,
Brésil,
mais,
il a fait une fois.
Quoi. Ça reste quand même très léger.
Bah, c'est déjà plus que celui-là. Pour moi, c'est un retour en arrière, c'est un grand pas en arrière. Et je pense que là, ils font un bon début de saison, mais on a vu d'ailleurs leur arrêt au stand qui était terrible. Pire que McLaren, c'est de dire. Moi, je pensais que c'était impossible.
Les deux fois, pour les deux pistes.
Ouais,
plus.
C'est oui, incroyable.
Mais apparemment, c'est un problème, Alors, soit d'écrou, soit dans le matériel. Donc, c'est pas un problème, contrairement à McLaren où c'était souvent un problème de...
Humain,
de ils voulaient aller trop vite et un problème humain, entre guillemets. Un problème, en tout cas, de volonté de trop en faire. Là, chez Force India, visiblement, c'est vraiment un problème technique qui est encore en cours d'investigation.
Ouais.
Et qui fait que les deux voitures ont été touchées et à chaque fois, je crois que c'est les deux ont été touchées à 2 reprises, donc.
Ouais. Bon, ben, même à ce niveau-là, c'est pas acceptable. Et ouais, donc, pour en revenir au bord de pilote, je pense que là, ils commencent bien. et je pense qu'ils vont très vite stagner. Et d'ailleurs, non, je pense que vraiment, c'est, ils ont même pas de troisième pilote là cette année. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on les verra plus. Parce que...
Mais est-ce qu'ils vont stagner à cause des pilotes ou à cause de la voiture et du fait qu'ils ont pas de
moyens? Mais je crois que c'est un tout, parce que d'habitude, Force India, ils ont l'habitude de commencer très doucement. Et au fur et à mesure, par exemple l'année dernière, ils ont commencé très doucement et c'est vraiment Hülkenberg à la fin qui les tenait, quoi, qui les menait. Di Resta était nulle part. D'ailleurs, Di Resta, je crois qu'il a été vachement surestimé après sa première saison. Là, quand Sutil, il arrive dès son premier Grand Prix, il est devant. Il fait la stratégie en tout cas pour se démontrer par rapport aux autres et c'était la bonne. Et non, je pense que ouais, Di Resta est très surestimé et Sutil, bon, c'est un bon pilote, mais c'est pas un pilote qui va être champion du monde. La différence entre lui et un champion du monde, c'est la saison 2005 de F3 Euro Series avec Hamilton. Hamilton, il fait 15 victoires et lui en fait 2 quand ils sont coéquipiers. Il se prend 100 points dans la gueule. Enfin, voilà. Force India, moi, je m'attends pas à ce qu'il brille vachement cette saison, peut-être sur un coup d'éclat comme ça, mais vraiment, je les vois pas aller très loin. Je vois pas Di Resta faire une carrière en Formule 1. Ni Sutil d'ailleurs. Et ouais, je vois plus Hülkenberg vraiment briller dans les équipes du même tableau.
Ne serais-tu pas par hasard fan d'Hülkenberg?
Hülkenberg, non, je suis pas du tout fan. C'est juste que bon, je pense que des pilotes qui ont 2-3 ans d'expérience, lui, Pérez, Grosjean, je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est vraiment le mec qui peut aller loin. Quand il s'exprime plutôt super. Enfin, je crois qu'il s'exprime super bien. Il fait vachement peu d'erreurs. Il est rapide. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un bon pilote et je pense qu'il peut faire une bonne carrière. Je pense pas qu'il va aller chez Ferrari. Je pense que c'est un autre.
Non.
Qui a beaucoup de talent. On sait qu'il va aller chez Ferrari. Un français.
Je veux pas ses dents. Moi, jamais ses dents à Rente, à Maranello. Jamais. Vous m'entendez? Jamais. Si jamais Ferrari le choisit, je vais à Maranello, je m'interpose.
T'inquiète pas, de toute façon, il y a peut-être une place qui se libère bientôt chez McLaren.
Ouais. C'est vrai.
Celle de Jensen. Bah non, oui, celle de Padillo, elle est déjà occupée. Non, Jensen, il va pas partir.
Bah, il va
pas partir. Peut-être mec
pour aller chez Ferrari.
D'ailleurs, McLaren, je pense qu'eux aussi sont... On va pas aller voir l'année des championnats dans les 2-3 ans à venir. Hein. Ils sont vraiment mal partis là. Et ils vont faire un petit peu, je pense qu'ils auront une mauvaise passe un peu à la Ferrari. Peut-être pas de 30 ans comme Ferrari a eu, mais je pense 5-6 ans où on va vraiment pas les voir gagner. À moins qu'il y ait un de leurs pilotes, junior team, là, Magnussen ou De Vries.
Ah, Nick De Vries.
Ouais, De Vries, lui, est très bon. Mais, enfin, je sais pas, on verra pour sa deuxième saison en Formule 2 Elite, je crois, s'il brille. Magnussen, j'y crois pas, comme son père, en fait, pas assez régulier. Mais ouais, je pense que le Ferrari, à moins que Lewis revienne, je pense qu'ils sont dans la merde, franchement.
Et donc ensuite, au niveau des actualités, est-ce que tu as une actu dont tu n'as rien eu à foutre ces dernières semaines?
Ecclestone, là, qui balance un peu sur Hamilton et sa copine. Ça, c'est un truc vraiment...
Il a dit quoi sur sa copine?
Il dit que sa copine, bon, ça a pas encouragé Hamilton à avoir une image plus humble. Enfin, parce qu'apparemment, il a une image.
Ben, c'est un peu l'histoire. Il est gentil, Bernie, mais c'est un peu l'histoire de la fête de la poule, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il est avec Nicole Scherzinger qu'il est pas humble, ou est-ce que c'est parce qu'il est naturellement pas humble,
non,
ou un peu starlet, qu'il a choisi d'être avec Nicole Scherzinger? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que, ben, voilà, il était plutôt attiré par ce milieu-là et par ce type de femme, donc.
Mais il a expliqué que en privé, en fait, c'est quelqu'un de relativement normal. Et que ouais, c'est depuis que Ron Dennis l'a un peu lâché, qu'il a un peu essayé de voler de ses ailes, qu'il est devenu un petit peu un rebelle entre guillemets, parce que Hamilton c'est pas un rebelle. Il suffit d'entendre parler. Ouais, ça c'est un genre de truc. Bon, ça, je m'en fous.
Alors ensuite, quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines?
En dehors des Grands Prix.
Ouais. Donc en dehors des résultats, une victoire t'aimerais et compagnie, ça.
Ma recette dans les points.
Et au contraire, quelle actualité, toujours en dehors des Grands Prix. En même temps, tu nous as un peu donné une actualité pour les Grands Prix. Mais bon, je vais la raconter. Quelle actualité, toujours en dehors des Grands Prix, n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines? Là, c'est l'inverse.
Que HRT revienne en Formule 1. Ou qu'il y a un truc qui va les racheter. Ah. Je pense que ce serait une bonne idée.
Ah, ça serait bon.
De toute façon, il reste plus grand chose d'HRT.
Le retour, bah oui, pour revenir,
quelqu'un peut toujours racheter la marque.
Ça a été question à un moment donné, je crois, mais ça s'est vite,
Scorpio, ouais, voilà, oui. Qui voulait venir, en fait, enfin, eux, ils voulaient venir sous leur propre nom.
Ouais.
Avec les châssis
à HRT. Racheter les châssis à HRT. Mais c'est peut-être qu'ils viendront l'année prochaine.
Ah.
Bon, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Donc, généralement, quand on n'a pas de nouvelles, c'est un peu comme le projet pur. Ça sent l'USF1
aussi.
Mais... ah, USF1. Ah, c'était beau ça. Et donc enfin, pour terminer cette heure de gloire, ouais. Oui, as-tu un drive-thru
du week-end? Bon, je vais pas être très original, malheureusement. Vettel, qui se comporte en petit con. Et vis-à-vis de son écurie et surtout Weber, je trouve que bon, ça se fait pas. Après, on peut dire que c'est ça le caractère d'un champion du monde, mais je pense que à part Schumacher et Senna, qui a fait aussi à Prost, San Marino, je pense pas être des mecs aujourd'hui comme Hamilton. Button. Alonso, je suis pas sûr, mais je pense pas qu'il le fasse. Je suis bon.
Ah non, mais Alonso, il a pas besoin de le
c'est...
faire.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Mais ouais, je pense que c'est bon.
Alonso, il a un bouton sur son volant, il appuie dessus, et automatiquement, Felipe Massa s'efface de sa route.
Ouais.
Bon, là, il se trouve qu'ils avaient connecté le bouton à l'aileron avant. Donc, c'est l'aileron avant qui s'est effacé devant sa route, mais.
Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous pensez pas que, enfin, j'ai rien contre Vettel, mais c'est souvent arrivé dans le passé, il aimait beaucoup freiner, quand quelqu'un allait le dépasser, mais vraiment freiner très fort, notamment après les voitures de sécurité, pour que l'autre justement s'encadre dans la voiture, dans sa voiture. Il avait fait à Button, je crois, l'année dernière.
Oh, on se souvient qu'il y avait la fois où il était derrière la voiture de sécurité,
oui, voilà.
Où il avait pris énormément de retard. Il s'est fait sanctionner.
Ouais. Ouais.
Voilà. Il y a, on va dire, déjà longtemps, je me rappelle, sous la pluie, c'était pas en Corée ou
en 2007, ouais, dont Weber.
Oui.
Mais ça, après, c'est dans des phases.
Oui.
Attention, ça c'est dans des phases de voiture sécurité, donc
ouais.
On sait très bien que c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement sous régime de cette voiture sécurité, on est amené, pour garder les pneus à température, les freins et compagnie, à faire des accélérations, des freinages et compagnie. L'exemple qui me revient, c'est celui de Button en 2011, je crois. Ils avaient failli s'accrocher parce que il se trouve que c'était arrivé au mauvais moment, c'est-à-dire qu'au moment où Vettel freinait, Button lui était en accélération. Donc, voilà, c'est ce qui fait ça. Je pense sincèrement pas qu'il y avait volonté de véritablement gêner. Là, sur la course, c'est vrai que j'ai lu ça à certains endroits qu'on se posait la question. D'ailleurs, même Fernando Alonso se dit qu'il s'était arrêté en plein milieu de la piste.
Non, mais c'est juste
c'est sur un départ,
ouais.
Sincèrement, je trouve que c'est, même lui, il a trop de dangers. C'est-à-dire que c'est l'aileron arrière. Si l'aileron arrière, il est touché, sa course, elle est finie,
ouais.
Compagnie. Donc, il n'a pas vraiment d'intérêt à faire ça, surtout en n'ayant pas le contrôle de ce qui se passe derrière lui. C'est trop dangereux. Tu peux tasser un mec contre un mur en compagnie. En compagnie, parce que t'es à côté de lui, t'as plus le contrôle des choses, t'as plus de visibilité. Là derrière, c'est quand même très dur. Faut pas oublier qu'il y avait la pluie, que voilà, et qu'il est en tête et que mine de rien, c'est toujours en tête celui qui guide un peu les trucs.
Derrière,
et pour le coup, c'est peut-être Alonso qui a manqué un peu de qui s'est un peu précipité, qui est peut-être allé un peu vite et qui a pas anticipé le fait que dans ces conditions-là, peut-être que Vettel allait être un peu plus lent.
Mais d'ailleurs, il a crié haut et fort. Enfin, tu voyais aux interviews de post-qualif qu'il était super optimiste, qu'il allait pouvoir jouer la gagne. Et je pense qu'il s'est un peu emballé au départ, parce qu'il pensait tellement qu'il allait gagner. Là, il est passé à l'extérieur.
Hein.
Oui.
Ouais, je pense qu'il s'est un peu emballé, Alonso, je pense. Ouais.
C'est pas son genre, Alonso, de s'emballer.
À peine.
Donc, Chenji, je pense que nous allons revenir sur Vettel un peu plus tard, à condition qu'il soit dans le classement. Rassure-moi, Chenji, il est dans le classement.
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Alors, Chenji, est-ce que tu as un drive-through?
Oui, allez, pour j'ai fait exprès d'en prendre un, d'en chercher un qui soit un peu extérieur. C'est la FIA et quand même sa télémétrie, hein. bon, la première fois en Australie, bon, d'accord. Là, ça fait quand même deux week-ends. Ça fait pas très sérieux quand même. Espérons qu'en Chine, la télémétrie sera réparée.
Il s'est passé quoi pour la télémétrie?
Bah en fait, c'est la télémétrie de la FIA qui est HS, mais pas ce week-end. Ça fait une semaine que c'est HS.
Ouais.
Mais ça, c'est dû,
en Australie,
fait,
c'était déjà le cas.
Ah bon.
On peut comprendre qu'en une semaine de temps, ils n'avaient pas forcément le temps d'avoir résolu le problème.
Ce
qu'il faudra voir, c'est en Chine, quoi, parce que en Chine, si c'est pas réparé, là, par contre, ils ont trois semaines.
Parce que, par exemple, ça veut dire qu'il n'y a pas l'affichage des drapeaux sur le,
sur
les volants.
Ah oui, ils en avaient parlé, ouais.
Voilà.
Rien, ouais.
Donc bon, quand c'est par beau temps, ça va, quand le temps est un peu mauvais, bon, ça va, parce que même sur les bords de piste, maintenant, il y a des écrans avec des LED, donc, on voit quand même les drapeaux. Mais c'est quand même toujours mieux pour la sécurité d'avoir quand même l'affichage des drapeaux sur le volant.
Ouais.
Et donc moi c'est pareil, j'ai fait comme toi, j'ai pris un petit drive-thru un peu en dehors, et ça sera un drive-thru à l'encontre de Lewis Hamilton. qui c'est surtout voilà, c'est, je trouve, j'ai trouvé c'est par rapport à son passage dans les stands de McLaren.
Ah. Oh mais c'est donc... cocasse ça. C'est
non non mais c'est non mais c'est non, c'est non non, c'est pas le passage, c'est pas le passage. Moi le passage au contraire ça m'a fait rire
comme tout le monde.
C'est la réaction de Lewis au sortir de la course quand on lui a demandé et compagnie, donc on lui a posé la question, c'est Sky Sport où il a dit bah je vois pas ce qu'il y a de drôle et compagnie.
Ah oui.
Bon, j'ai envie de dire Lewis un peu de second degré, un peu d'humour. Voilà, là pour le coup, il est pas drôle et même j'étendrai un peu mon drive-thru aux déclarations qu'il a faites aujourd'hui par rapport aux consignes de course, où je crois sincèrement que s'il y en a un qui aurait dû rester dans ses petits papiers aujourd'hui, il n'a rien à dire sur les consignes de course, c'est bien lui.
Surtout qu'en plus, donc, voilà. Il avait l'air vraiment gêné sur le podium.
Oui, oui, mais ça
le voit.
Voilà. Donc, c'est pas un Vettel.
Donc pour le coup, voilà, dire ouais, chez Red Bull, il y a un numéro 1, un numéro 2. Déjà en plus, c'est même pas avoir compris ce qui se passait clairement en Malaisie, parce que justement en Malaisie, le problème c'est que on a voulu demander au numéro 1 de rester derrière le numéro 2. Donc c'est justement la preuve que il y a pas de, c'est ce qu'a d'ailleurs ce qu'a expliqué Helmut Marko, c'est qu'il y a pas de numéro 1, pas de numéro 2, puisqu'on a demandé au numéro 1 triple champion du monde de rester derrière le numéro 2.
Justement, je crois qu'il
Mais voilà, par contre pour m'avancer, plus jamais, je dis bien plus jamais. Mais Red Bull nous sortira. Oui, mais vous savez, nous, on n'est pas comme Ferrari. On ne fait pas de consignes. On laisse nos pilotes disputer la course.
C'est pas nouveau, ça.
Oui, ouais, mais ça, c'est ce qu'ils disaient avant.
C'est pas nouveau, ça.
C'est pas comme Ferrari.
Non, mais voilà, mais c'est ce qu'ils disaient avant. Mais ils continueront de le dire après. Parce qu'ils sont fous, ça. Mais c'est pas le premier incident qu'il y a. Tout le monde fait un drame aujourd'hui, mais c'est pas le premier incident qu'il y a. Il y en aura
d'autres. Mais sinon, ouais, pour revenir sur Hamilton, oui, c'est un peu dommage parce que c'était drôle et cocasse, quoi. C'est sûr. En plus, voilà, de tous, c'est chez McLaren, donc tout bien.
Et en plus, le pire, c'est qu'on voit pendant le Grand Prix une image de sa copine qui est morte de rire. Donc voilà, tu te dis, lui, alors comme depuis le début de saison, il a un discours qui consiste quand même à pas mal dénigrer McLaren. Mm. Enfin, je pense que dans les années à venir, on va quand même apprendre des trucs parce que visiblement, il a une grosse rancune envers McLaren. Ouais. Que peu à peu ça commence à sortir et là sa réaction très à froid, alors est-ce qu'il était pas content parce que
je pense qu'il avait
à cause
marre,
des consignes et compagnie, voilà, c'était peut-être pas le bon moment, mais bon, sa réaction était quand même un poil pisse froid.
Ouais, c'est vrai. Il a dit, il a fait j'ai fait une Jenson, enfin je sais pas s'il sourit.
Oui, parce qu'il l'avait fait, oui.
Ouais, 2000 ans je crois, en Chine. Quand Hamilton.
Mais Jenson, il était pas retourné chez Honda.
Lui,
il était passé, il était passé chez Red Bull. Bon, voilà, c'était peut-être un acte manqué.
Oui.
Alors j'en profite quand même pour rassurer nos auditeurs, nous allons en direct les tenir informés, parce que là le match commence, les tenir informés du score de France-Espagne.
Oui.
Donc je rassure nos auditeurs qui nous écoutent actuellement, n'ayez pas peur, nous allons, quand il faudra, vous tenir informés
donc,
du
si
match.
Vous entendez d'un coup Dino gueuler pour quelques raisons, vous savez pourquoi.
Voilà.
Eh bien messieurs, après ce quart d'heure de l'invité, je vous propose justement de rentrer dans le vif du sujet et de ce fameux week-end.
Ça va être vif.
On a eu le chaud, le froid, beaucoup d'humidité par contre, ça, tout le week-end, de la flotte, il y en a eu tout ce que vous voulez.
C'est pas tant que ça.
Et oui, pas, c'est vrai.
Elle était pas si importante qu'en Australie, pouvait toujours rouler, parce que le circuit était bien drainé, je crois.
Ouais, bah c'est là pour le coup, c'est un vrai circuit quoi.
Ouais.
C'était terrible les images quand tu voyais les pilotes à la zone des interviews, t'as l'impression qu'ils étaient en pleurs, tu sais, qu'ils avaient fait un truc catastrophique. Non, c'est juste ils sont en sueur. Et donc les qualifications. Alors à noter en Q1.
Les guignols.
Tu veux commencer par les guignols? Et oui, les deux guignols de la semaine.
On s'en fout, les quatre autres, ils sont toujours pareils.
Ah non, mais c'était juste pour dire quand même que Bianchi était épique, avait été devant leur coéquipier.
Ouais, voilà. Je pense que bon, Pete, c'est normal, c'est surtout Bianchi qui a fait un truc assez énorme.
Ouais.
Ouais. Pete, bon.
Et donc, les deux guignols de la semaine, c'est Jean-Éric Vergne et Valtteri Bottas. Comme quoi, quand on voit les résultats en course, finalement...
Mais Vergne, c'est bizarre parce que tout le week-end, il était vachement plus rapide que son coéquipier. Même avant, sur le train de Hard, il était genre 4 dixièmes plus rapide que lui. Et je crois qu'il s'est fait gêner par une Marussia, je pense justement par Bianchi, dans le deuxième 7 heures. Et ça lui coûtait la qualif parce qu'il était vraiment au-dessus de Ricciardo sur tout le week-end.
Mais globalement, pour le moment, pour lui, la saison commence plutôt bien par rapport à Ricciardo.
Oui, pareil. En Q2, eh bien, à la dernière place de Q2, il n'a même pas fait tant. C'est Pastor Maldonado. Ce qui fait quand même Williams 16 et 18...
Elle est vraiment pas terrible.
C'est mauvais début de saison.
Il est encore endeuillé par Chavez, je pense. Il est encore en travers de la gorge.
Sinon, à la 15e place, Paul Di Resta. 14e, Gutiérrez. 13e, Ricciardo. Donc, comme quoi, lui avait quand même réussi à passer en Q2.
Ouais, mais il s'est fait, ouais.
Hülkenberg à la 2e place. Et le grand déçu quand même de la Q2, Romain Grosjean.
Alors, il a expliqué qu'en fait, ils ont perdu le radar météo chez Lotus. Mmh. Et donc, du coup, ils ont pas, alors, parce que j'ai pas vu les qualifs, mais apparemment, il y a eu une averse dans la fin de
Q2. Oui, à la fin de Q2.
Et mmh. ils ont pas vu arriver, donc ils ont attendu.
Bah, c'est-à-dire qu'il est rentré, il est rentré dans le stand, et, enfin, je sais pas, et peut-être qu'il fallait qu'il parte peut-être juste 30 secondes, une minute avant, et voilà, et c'était bon. Et malheureusement, voilà, il est parti vraiment juste au moment où ça pleuvait, donc c'était foutu.
Il a fait son tour en pneu rodé. Alors que Raikkonen l'avait fait en pneu neuf, ouais. Si lui coûte, ben ils ont une seconde d'écart, c'est un peu l'écart normal entre un pneu neuf et rodé. Ça lui coûte la qualif, enfin.
Et donc en Q3, où là il pleuvait, Perez dixième. Donc lui aussi c'est pareil, on peut pas dire qu'il fasse un.
Ouais, Perez.
Un début de saison.
Il déçoit beaucoup.
Bon, l'ensemble.
Ouais, mais il a pas non plus de quoi se défendre non plus avec sa voiture. Hein. Enfin, c'est ouais, difficile pour un jeune pilote comme ça.
En qualif par Button.
Déjà la qualif ça a jamais été son fort. Ouais. Faut pas non plus oublier qu'il a quand même bénéficié d'une écurie Sauber qui avait une bonne voiture. Mmh. Moi j'ai toujours minimisé Perez. Tout le monde en faisait un quasiment demi-dieu l'an dernier. En disant attention, c'est beaucoup de courses à la stratégie et compagnie. Moi, je reste convaincu que Perez ne pourra pas remplacer Hamilton. Il n'a pas la vitesse pour.
Ah bah non, ça c'est sûr.
Oui. Voilà. Bon, déjà Hamilton, la barre est très haute, mais même face à Button, c'est un gros calibre pour Perez. Mm. Et quand à la présentation, il commençait déjà à avoir les dents longues, qu'il a effectivement. bon bah c'est, voilà.
T'as une obsession sur les dents, toi.
Ouais, c'est bien.
Oui, mais
bon, c'est les deux. Hein, normalement, il n'y a pas d'autre.
Et Hülkenberg est meilleur, par exemple, je trouve.
À la 9e place, Adrien Sutil, confirme
devant Di Resta. Di Resta a pas eu la chance s'il y avait l'appui.
Button 8e, donc Raikkonen lui s'était qualifié à la 7e place. Ensuite on trouve donc les trois équipes vraiment rapides.
C'est incompréhensible pour Raikkonen quand même.
Ouais, mais c'était pas un bon week-end pour Raikkonen de façon générale.
Non mais
il y avait un problème d'équilibre sur sa voiture. Ouais,
c'est-à-dire que c'est quand même étonnant que le vendredi la voiture tourne bien et à partir du samedi la voiture ne tourne plus bien du tout quoi.
Mmh. En plus il y avait
alors est-ce que c'est les nouveautés ou
c'est possible hein. On a beaucoup attaqué un peu Lotus cette semaine parce que j'ai l'impression que ils faisaient un peu peur notamment sur le fait que Raikkonen avait les nouvelles pièces en premier. Bah oui, mais faut pas oublier que si les nouvelles pièces elles marchent pas, ça sera aussi le premier en
pâtir. C'est ce que j'ai mis dans l'article. Hein.
Oui, voilà.
C'est à double tranchant pour Raikkonen. Hein. Si c'est efficace, c'est bien. Si c'est pas efficace, c'est Raikkonen qui les avantageait et Grosjean qui est avantagé.
Si elles étaient pas efficaces, je pense qu'elles auraient enlevé parce qu'ils ont vu qu'il y avait un gain quand même le vendredi parce que sur un tour il était meilleur.
Oui, mais même là ça le pénalise. C'est-à-dire que comme lui il fait tout son vendredi avec les pièces. Avec les nouvelles pièces, s'il les retire, bah, il a perdu quand même une journée de travail, donc même si ça se compense assez facilement avec le travail du coéquipier, mais sa préparation n'est pas optimale. Là où Grosjean lui serait plutôt avantagé, puisqu'il l'aura fait tout le week-end avec les mêmes pièces. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est toujours. C'est vrai qu'ils ont l'honnêteté de le dire. Maintenant, c'est vrai que dans la communication, c'est peut-être pas forcément malin de le dire parce que forcément, ça suscite beaucoup de questions. Là où c'est parfaitement logique et compréhensible, quoi.
Enfin, oui.
Ils n'ont pas non plus les moyens de produire deux jeux de pièces déjà. Red Bull et Ferrari sont pas capables de le faire, donc Lotus.
Et puis c'est Raikkonen, hein. C'est logique de lui donner à lui et pas à Grosjean.
Oui.
À part pour les Français, bien sûr, mais bon.
À la 6e place, Nico Rosberg. À la 5e, Mark Webber. Lewis Hamilton avec sa Mercedes 4e. Décidément, la Mercedes qui nous prouve que, en tout cas, sur un tour.
Hamilton avait raison.
Voilà, elle est rapide.
Elle vaut le top 10.
Ah ouais. Oui, bon, ça, c'était pas non plus trop compliqué, quand même.
Non, mais rappelons-nous quand même qu'il fut un temps où l'objectif de Mercedes, c'était le top 10. Je dis ça, je dis rien.
Ils avaient des stratégies différentes, je crois. Il y a Mercedes et Weber qui sont restés, et il y a les autres qui sont allés chausser un nouveau train d'intermédiaire. Et je pense que ça a fait la différence à la fin.
Alonso fait la 3e place derrière Felipe Massa.
Ma Fernando. Que passa?
Felipe, il se passe tard, du coup.
Merde. Si on m'avait dit ça un jour.
Mais il a toujours été fort en qualif, Massa. Enfin, avant son accident, il était super fort en qualif. Hein. Il faisait pas mal de pôles. Et bon, et là, il a retrouvé sa vitesse. C'est bien. Ça fait 4 grands prix d'affilée, je crois, qu'il était dans l'Anzon en qualif.
Il est devant,
ouais. Ouais, c'est bien pour lui. Hein.
Et donc, la pole de Sébastien Vettel, 913 millième quand même devant Massa.
Ouais.
C'est waouh.
Mais bon après
sur le mouillé.
La Q3 s'est disputé sous la pluie.
Oui,
c'est le dernier. Mouillé, c'était le dernier à passer sur la ligne d'arrivée avec les nouveaux pneus, donc bon les écarts.
Voilà.
Après ça va être la Red Bull au-dessus sur un tour.
Même au sortir de la qualif, c'était particulier pour Red Bull parce que quand c'était sur le sec, ils avaient du mal.
Ouais, c'est vrai.
Au début,
ouais,
ils étaient pas là, et le fait qu'il y ait eu de la pluie, ça les a aidés, c'est incroyable.
Il a dit,
mais c'est ça le problème, c'est que pour moi, sur les deux premiers Grands Prix, on n'a jamais vraiment pu voir les voitures dans les conditions. Peut-être falloir attendre la Chine, ça risque d'être un peu gramouillé aussi. Donc il faudra peut-être attendre plutôt Bahreïn, quoi. Mais encore, Bahreïn, c'est, là aussi, c'est des températures, c'est des conditions qui sont un peu extrêmes, donc. On n'est pas prêt d'avoir vraiment le vrai Barcelone. S'il fait beau à Barcelone, l'an dernier il avait fait beau et on avait vu Williams devant. T'as une couille.
Il y a un truc qui cloche. Donc à noter, donc Kimi Räikkönen a été rétrogradé de 3 places pour avoir gêné Nico Rosberg durant les qualifs. Il est parti 10e.
Moi, j'ai pas envie de le condamner, Räikkönen, parce que pour gêner un mec, faut le voir.
Je n'ai pas vu les
images. Ça fait tellement d'années qu'on n'est pas habitué à le voir.
C'est vrai, on l'a vu, Nico Rosberg est pas qu'un peu.
Maintenant, il le voit, il est surpris, il dit, merde, putain, il y a 2 Mercedes, maintenant.
Et elle roule vite.
Voilà, attends.
C'était la 38e pole position pour Sébastien Vettel, la 48e pour Red Bull, la 204e pour Renault, pour le moteur Renault. Ils vont bientôt rattraper Ferrari.
Ouais, m'en parle pas aussi.
À une moyenne de 181,946 km/h. Et donc tout ça nous annonçait un Grand Prix fort intéressant. Il l'a été, à plusieurs titres. Et Dino, peux-tu nous révéler quels pilotes ne font pas partie du top 10 cette semaine?
Alors déjà, je peux vous dire, vous avez été 187 à voter. Et nous vous en remercions. La semaine dernière, on avait été 241, je crois. Là, 187.
C'est un beau chiffre aussi.
C'est encore un beau chiffre. Voilà. À signaler quand même, on va commencer par le nombre de points marqués par le vainqueur. Ça sera une référence. 3558 points marqués par le vainqueur, qui reste un homme mystère pour le moment. Et donc, ne seront pas classés dans le top 10. Et vous rentrez chez eux en pleurant parce qu'ils sont pas dans le classement du
top 10
cette semaine.
Non, ils ne pleurent pas, ils sont en sueur. C'était la Malaisie.
Ah oui, c'est vrai. Daniel Ricciardo, 22e et dernier avec 38 points. Juste derrière, Pastor Maldonado avec 48 points en 21e position. En 20e position, Guido Van der Garde avec 70 points.
C'est bien, tu le dis
et
bien.
Et Paul Di Resta, 19e avec 92 points. En 18e position, Max Chilton à 112 points. Il est juste derrière Valtteri Bottas, 17e avec 118 points. Gutiérrez, 16e à 124 points. Adrian Sutil, 15e à 145 points. Charles Pic, 14e à 191 points. Sergio Perez, 13e à 213 points. En 12e position, nous retrouvons l'homme qui a les dents longues, Hülkenberg, 576 points. Et enfin, cette semaine, Mr. Eleven et Jean-Éric Vergne avec 649 points. À noter que ça s'est joué petit pour le top 10. Hein.
Avec certaines places qui se jouent quand même à pas beaucoup de points par rapport au nombre de points marqués.
Et avec des mecs qui sont dans le top 10, on se dit, mais pourquoi?
Il est étonnant, ce top 10.
Genre, vous pensez à un pilote, par hasard, hein, qui a une voiture sans aileron avant, mais tiens, c'est bizarre, il est pas en dehors du top 10.
Il y a des primes au fan club et plein d'autres choses cette semaine. Il est 10e, il a marqué 665 points.
Je voudrais juste te rappeler quand même qu'il y a des gens en dehors du top 10 voilà.
Ah oui, c'est vrai. En plus, il y en a plein. Il y en a plein. Parce que.
Contrôle un peu cette émission, s'il te plaît.
Puisqu'on a tous les trois donné des points à Hülkenberg.
Ouais.
J'ai mis 10e, moi. Mais pour
Moi, j'ai mis 8e aussi au classement.
Mais premier Grand Prix, il a mis des points, c'est bien.
Non, mais il était aussi fort sur les conditions séchantes, là. Mm. Il était en train de. Il doublait tout le monde, c'était assez impressionnant.
Officiellement, c'est son premier Grand Prix.
Oui, c'est vrai.
Puisqu'il n'a pas pris le départ du dernier Grand Prix de l'Australie, donc officiellement, c'est son premier Grand Prix avec Sauber.
C'est encore un truc que dans 30 ans, on fera « Oui, mais Nico Hülkenberg, non, il n'a pas 204, il a 205 !» Parce que, souviens-toi, en mars 2013, sinon on a tous les trois donné des points à Jean-Éric Vergne.
Ouais, je l'ai mis 6.
Je l'ai mis 8, moi.
Je l'ai mis 7. Bah, il s'est montré pendant la course, ouais.
La remontée qu'il fait, parce qu'il est nulle part, il fait un départ pas terrible, je crois qu'il est derrière les Caterham. Et il y a un accident dans les stands avec Pete, justement, et il revient de nulle part. Je crois qu'il fait un run de 20 tours avec les pneus médiums. Il rattrape son coéquipier, le double, et finit dans les points, dans les 10 derniers tours. Et franchement, en course, c'est pas un secret, il est très très fort. Ouais, moi je l'ai mis 6 parce que pour la remontée, tu l'as fait, en tout cas.
C'est très peu payé de finir 10e parce qu'il fait vraiment une splendide.
Il était pas content d'ailleurs, je crois, à la fin. Il disait qu'il était pas là pour faire la 10e place et que sans l'accident, ils auraient été beaucoup plus haut.
Mais il est jamais content.
Non, mais c'est bien aussi qu'il soit comme ça, d'être ambitieux, c'est bien.
En France, oui, on, être ambitieux, il manque mais ça. Ben, en Australie, il râlait, là, il râle. À un moment donné, il faut aussi être ambitieux, puis il faut aussi avoir conscience.
Qu'on a qu'une tour.
Au début de saison, quand Ricciardo disait, on va peut-être faire le podium, là, même encore après l'Australie, il disait, le podium est encore possible, t'as juste envie de dire, bon, t'as une Toro Rosso, même si les écarts vont se resserrer. Bon, vise déjà un peu plus régulièrement les points, cherchez à doubler peut-être votre capital points cette année, mais on vous demande pas de faire un podium ou quoi que ce soit, quoi.
Ouais, mais eux, ils sont un peu obligés à ça pour, parce que leur but, c'est d'être chez Red Bull l'année prochaine. Ils doivent passer par là pour
être chez Red Bull. C'est-à-dire que le précédent, il a mis tellement la barre haut que, effectivement, si tu veux passer dans l'écurie première, aujourd'hui, un podium, c'est vraiment, c'est le strict minimum pour passer c'est un podium.
En tout cas, pour l'instant, il fait un meilleur début de saison que l'Australien.
Largement. Je crois qu'il a pris la mesure, là. Je crois que c'est bon. Là, cette saison, je crois qu'il va vraiment, mais. Ouais, surtout en qualif où il est devant, ça c'est bien.
Sinon, Dino, tu as aussi donné deux petits points à Charles Pic.
Ah. Oui, parce que quand on prend en compte, alors j'ai déjà mis un message là-dessus sur Bianchi. Alors tout le monde crie à Bianchi, compagnie, c'est génial, et compagnie, le plus fort et compagnie. Bon, moi j'aime beaucoup Bianchi. Je trouve qu'effectivement il fait un début de saison exceptionnel. Il fait preuve d'une maturité, même s'il a commis quelques petites erreurs ce week-end. Mais bon, globalement, pour un débutant, il est quand même très solide. Bon, il a un talent qui est indéniable. Maintenant, faut aussi un peu se calmer sur Bianchi. Lui laisser le temps, et ensuite un peu se calmer, parce que quand on y réfléchit bien, il a pas véritablement de rivaux, dans la mesure où, bon, Max Chilton, c'est pas faire injure à Max Chilton de dire qu'il est très loin d'avoir le talent de Bianchi.
J'ai envie de dire, Bianchi, il est meilleur que Chilton, ça paraît clair et net. J'ai même envie de dire, il est même meilleur que sa Marussia.
Bah, c'est toujours le même truc, c'est à quel degré. Est-ce que c'est Chilton qui représente le niveau de la Marussia? Est-ce que c'est Bianchi qui le représente? C'est une question de point de vue. Je pense que du côté de Chilton, on va se rassurer en se disant, bah non, pour moi, c'est
et
moi
sinon,
qui
ne
pas bien la voiture. Et non, mais alors, du coup, pour revenir à Charles Pic, quand on y réfléchit, Bianchi en face, il n'a pas non plus la concurrence des Caterham qui, pour le moment, sont entre guillemets largués par Marussia, faute de développement réel et d'avoir une véritablement une voiture nouvelle. Donc, Bianchi, vraiment. Cette saison, c'est bien de le récompenser parce qu'il fait quelque chose de beau, mais il faut aussi penser à Pic, je trouve, qui a pas fait un mauvais week-end, qui a fait une erreur en Australie, mais qui a pas fait un mauvais week-end. En course, bon, il est dans le même tour Bianchi, il doit être à 35-40 secondes. Quand on retire l'accident qu'il a eu dans les stands et compagnie, bon, l'écart est déjà un peu plus raisonnable, avec une Caterham qui est pas aussi bonne que la Marussia pour le moment. Pic fait pas un mauvais Grand Prix, donc c'est un peu plus pour ça que je l'ai mis. C'est vraiment pour dire aux gens, bon, Bianchi est là, n'enterrons pas Pic, parce qu'on a justement la chance, je pense, d'avoir dans ces deux équipes là deux pilotes performants qui performent très bien avec leurs voitures respectives.
Moi, Pic, enfin, pour avoir sauvé un peu leur carrière respective en dehors de la Formule 1, mais avec Bianchi, mais il y a vraiment pas photo. Je pense que Bianchi, tu le mets dans une Marussia, il serait devant les Caterham. Dans une Caterham, il serait devant les Marussia.
Bianchi, ce qu'il fait, c'est bien, mais n'oublions pas Charles Pic, que tout le monde mettait voilà, l'an dernier, c'était pilote préféré des Français, il était super bien et compagnie. Là, cette année, n'oublions pas qu'il a une Caterham qui n'est pas au niveau de la Marussia, et que mine de rien, il fait quand même il a fait un bon Grand Prix. Donc voilà, ne l'enterrons pas, c'est pas parce qu'il y a Bianchi qui aujourd'hui fait des bonnes choses qu'il faut enterrer Pic. C'est un pilote totalement différent. Bianchi, c'est plutôt un Lewis Hamilton, c'est un attaquant, c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de la course, le sens de la bagarre et compagnie. Là où Charles Pic, on l'a toujours dit, c'est plus un Prost, un Button.
Un Prost, non.
Plus, voilà, qui est beaucoup plus dans la gestion et compagnie. Donc, c'est deux profils très différents. Ben, voilà, forcément, le duel, il va s'imposer, on va les comparer, ça c'est obligatoire. Mais voilà, Pic, ne l'enterrons pas et n'oublions pas qu'il nous a quand même fait une excellente saison l'an dernier et que, ben, pour le moment, malheureusement, on peut pas vraiment juger de ce qu'il fait chez Caterham parce que, à part dominer Van der Garde, ce qui n'est pas en soi... bon, vaut mieux dominer Van der Garde que Chilton, pour moi, personnellement. Van der Garde est un poil meilleur Chilton, je pense. Mais bon, voilà, il n'a pas non plus un coéquipier qui est très valorisant, quoi. J'aurais préféré qu'il ait Kovalainen en face.
Ouais, ça va très bien pour les comparer.
Alors, on a parlé de lui. Dixième, avec 660 points, c'est Jules Bianchi. Et lui, tu lui as même donné ta cinquième place.
Moi, non, parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est notre chance future pour être champion du monde. Grosjean, j'y crois pas. J'y crois absolument pas pour l'avoir suivi en GP2.
Ça fait deux Grands Prix.
Pour moi, c'est pas un top pilote. Après, Jean-Éric Vergne, je sais pas trop. Il faut s'améliorer en qualif, mais pour moi, Jules Bianchi, c'est l'avenir. C'est le futur de la France en Formule 1. Il fait, pour l'instant, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens dans le paddock. Enfin, moi, je suis un peu tout
ouais,
ça.
Mais sur le Grand Prix,
sur le Grand Prix, justement, parce qu'il prend un mauvais départ et il est coincé derrière une KTM. Mais dès qu'il la passe, mais il les oublie. Il tournait une seconde pratiquement plus vite qu'eux. Sur les meilleurs tours en course, il est une seconde devant tout le monde. Pour moi, ce qu'il fait, c'est vraiment exceptionnel et je pense que on peut être content qu'il y ait eu un baquet cette année parce que sinon, ça aurait été un déchet complet. Je pense que là, c'est pour moi Jules, c'est ce qu'il fait, c'est vraiment très très bien. Et
mais
moi,
est-ce que tu penses que s'il fait une bonne saison, il peut finir chez Ferrari dès l'an prochain?
Ben je pense, ouais.
Ah, parce que moi, c'est aussi l'opinion que j'ai, c'est que s'il continue à faire une saison de la facture qu'il est en train de faire,
imagine
en ce moment,
qu'il marque des points. Et c'est pas du tout impossible. Hein. Ouais. Dans des conditions qui seraient pires, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, même au niveau de la pluie, ça n'a pas été l'apocalypse non plus ce week-end, mais dans des conditions qui seraient vraiment terribles ou particulière 13
Non et puis en plus enfin la Marussia même la Caterham quand on regarde les deux elles se sont quand même rapprochées des Williams Toro Rosso on peut se dire effectivement bon je pense pas qu'elles rattraperont les écuries ces écuries là à la régulière parce que ça reste quand même des écuries qui ont aussi une capacité de développement supérieure à Marussia et Caterham en tout cas sur un grand prix comme Monaco là par exemple pour le moment alors que les écarts sont assez serrés sur un grand prix comme Monaco il suffit d'une bonne qualif, il suffit ensuite d'une bonne course, des abandons. La 10e place est envisageable.
Mais moi, je pense qu'il peut le faire, Bianchi. C'est Ted Travis qui l'a dit sur Sky. Bianchi gagne tout son temps dans les virages rapides. Les virages rapides, c'est quand t'es à fond, c'est vraiment le placement qui compte. Donc déjà, ça veut dire déjà qu'il y a une trajectoire parfaite. Et Bianchi, il a toujours été extrêmement fort à Silverstone. Et je pense que même à la régulière à Silverstone, si les Williams restent à ce niveau, je pense qu'il peut passer en Q2. Parce qu'il était à seulement 5 dixièmes de la qualification ce week-end. Je pense que la Silverstone, il pourrait bien passer en Q2 et à Suzuka aussi, pourquoi pas. Après, bon, pour la course, je pense que c'est, il peut devenir le Williams, mais après les Toro Rosso, les Sauber, ça serait compliqué. J'ai des conditions un peu dantesques. À Silverstone, je pense qu'il pourrait créer la surprise à Silverstone.
Passons à la 9e place. Il a marqué 748 points. Eh bien, c'est un pilote McLaren. Oui, McLaren marque ses premiers points au 2e Grand Prix. Et c'est quand même vachement rare que ça arrive. C'est Jenson Button.
Mais il ne passe pas devant...
il ne passe pas devant Marussia. Donc moi, je lui ai donné un
Allez,
point,
nul.
Comme lui. Non, tu lui as donné 10 points.
Bah oui parce que alors bon il a déclaré qu'il pouvait viser le podium bon j'y crois moins mais il pouvait pour moi légitimement viser la 5e place il n'était pas en stratégie fort décalée il avait rallongé ses relais et compagnie donc on en avait retrouvé Button dans le rythme de Button et compagnie il a été en tête pour moi il pouvait sincèrement s'intercaler entre les Mercedes et le 5e je crois que c'est Massa donc c'était faisable. Perd un truc genre une minute ou une minute trente dans les stands à cause de la roue mal vissée.
Le coup
quoi.
Du pneu, voilà, c'est terrible ça.
Encore une fois, McLaren.
Et fort heureusement, il s'est arrêté vite et le pneu n'est pas parti. Parce que bon, c'est vu qu'il n'était pas fixé, il aurait pu vite partir. Là, dans le... ouais.
Alors, de mémoire, si je ne me trompe pas, en Hongrie, quand la Mercedes de Rosberg avait perdu son pneu, Mercedes avait copé le $50,000 d'amende.
Enfin, il y avait eu un blessé, je crois, bon, pas, quelque chose comme ça.
Ouais.
C'est surtout ça, quoi.
Ouais, mais Button, c'est bien, et on le retrouve un peu comme un son d'habitude, pas terrible en qualif, mais très bon en course. Bon, après, je pense que, ouais, podium, ça aurait été compliqué.
Ouais,
entre Grosjean et Massa.
Ouais,
ça aurait été compliqué.
Il arrive à se faire surnager au moins la McLaren,
La McLaren a l'air mieux sur les circuits, classiques avec les rapides, enfin, un peu type Barcelone, Malaisie. Et je pense qu'en Chine il pourrait être bon aussi. Enfin bon.
Non, c'était. Mais après, on le sait, hein, McLaren, ça peut beaucoup. La voiture peut énormément évoluer.
Oui. Quand on voit en 2009 ce qu'ils avaient au début, ce qu'ils ont à la fin. Enfin...
Alors il y a des rumeurs. Hein. Même si McLaren a dit
pour
que c'était pas facile de faire une monoplace.
De l'an dernier. Non, ah oui, ils ont dit que.
Il y a des rumeurs qui évoquent peut-être pas la Chine, mais peut-être Bahreïn où il viendrait avec l'ancienne voiture.
Ça serait énorme. Ils l'ont fait une fois avec brio, mais enfin c'était pas que la voiture était nulle, c'est qu'elle n'était pas prête une année.
Oui, bah ils ont fait une fois, ils ont commencé la saison avec l'ancienne voiture.
Et ils ont fini la saison avec la MP4.
On la garde.
Une voiture avec quand même D à la fin, c'est rare quand même. En général, c'est B, rarement C déjà. Mais ça serait quand même un énorme aveu d'échec.
Ouais, ouais.
Ah oui.
Sans la saison, c'est mort pour eux. Ils vont pas être champions. Bon, autant tenter quelque chose.
pour le coup, comme tu disais, Louis, peut-être que c'est le début d'un creux, parce que vu ce qu'on dit sur McLaren, l'an prochain, la voiture sera différente, donc bon, ça peut tout changer, mais vu ce qu'on dit avec le moteur, est-ce que ça va bien se passer une dernière année avec Mercedes et tout ça, et que faudra quand même préparer un nouveau châssis avec un nouveau moteur, peut-être qu'il va falloir attendre justement McLaren-Honda pour revoir McLaren sur le devant de la scène.
Ouais.
Mais
ça veut dire cette année ils perdent.
Ça veut dire pas avant 2 ans quoi.
Cette année ils perdent plein de trucs mine de rien parce que ils perdent Lewis Hamilton, ils vont perdre Padillo. Ouais. Bon même s'ils retrouvent Tim Goss qui est pas non plus une chèvre hein, dans son domaine. L'incertitude autour du moteur, si ça se concrétise, il y aura forcément un.
Et ça va être compliqué l'an prochain entre Mercedes et McLaren.
L'an prochain, c'est compliqué.
Il va falloir bien séparer les trucs parce que ils ont déjà la trouille Mercedes que leur moteur soit copié par les Japonais.
À la limite, moi je dirais que ça serait peut-être idéal justement pour un pilote, mais en plus c'est même pas, c'est dur d'attirer une pointure dans ces conditions. C'est-à-dire que le mec, aujourd'hui McLaren n'est pas capable,
par exemple,
non mais ils sont pas capables d'aller voir Vettel par exemple en lui disant écoute viens chez nous.
Ben non.
Moi c'est le moment où j'irai faire une offre, sincèrement. Mais ils peuvent pas aller voir Vettel parce que Vettel leur dire mais vous avez quel moteur.
Mais voilà, en même temps,
en état, ils sont pas sûrs de pouvoir donner la réponse.
En même temps, ils veulent ramener qui? Vettel, il va certainement pas se barrer de sitôt chez Red Bull. S'il se barre, a priori, ça serait peut-être pas pour McLaren. Alonso, on le voit mal revenir chez McLaren.
Ah, tu me fais plaisir, chez
lui. Oui, non, mais Raikkonen, on le voit mal revenir chez McLaren, parce que bon, voilà.
Mais c'est vrai qu'ils se sont grillés avec pas mal de mecs, quoi.
De toute façon, là, il a signé jusqu'en quelle année, Pérez, en ont pour quelques années encore avec
ils ont dit à long terme.
Ça serait minimum 3
ans. Ouais, encore 2-3 ans, on va être Button et Pérez, quoi.
Non, puis de toute façon, Pérez, ils en ont besoin. Enfin, l'année prochaine, il n'y a plus Vodafone.
Et ça veut pas dire.
Alors même si on parle de Gillette, la perfection au masculin,
mais Senna.
Il est pas impossible de.
Bon, Senna est vraiment pas bon, mais Gillette, Senna.
Ouais, mais non.
Non, mais je suis d'accord. Hein. Il y a rien à faire en Formule 1.
Parle de McLaren, merde. Tiens, le mec, il arrive chez McLaren, il s'appelle Senna, il a intérêt à être bon.
C'est quand même le sponsor le plus chiant au monde, Gillette. Parce que ça veut dire que t'es obligé de te raser. Tu peux pas une fois un matin te dire demain. Non, t'as un sponsor, donc faut que tu sois bien rasé.
D'ailleurs, Ferrari a refusé le sponsoring de Gillette parce qu'Alonso voulait pas.
Eh bien, c'est bien que tu parles d'Alonso parce que à la 8e place, il a marqué 816 points et on va dire que c'est très rentable parce que le ratio points tour est quand même très bon. Hein. Encore une fois, je crois que il y a un bel effet fan club. Peut-être aussi que c'est pour rendre hommage à son 200e Grand Prix. Hein.
Ouais, puis à son départ, parce que mine de rien, il prend un bel envol.
Ouais, mais tu mets pas dans le top 10.
Bon,
pour
il
ça.
Est pas non plus gêné. Enfin, voilà, il part 3e, il est pas gêné non plus par Massa. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le mettre dans les points. Enfin, quand on voit Vergne, par exemple, il finit 11e.
C'est pas non plus complètement de sa faute. Enfin, en tout cas, ce qui s'est passé après avec l'aileron.
Bah, si. Enfin, déjà, c'est lui qui fait l'erreur sur Vergne.
Bah oui, mais je pensais plutôt à ce qui s'est passé après avec l'aileron.
Ouais, de toute façon, mais c'est lui qui sent. Enfin, si, c'est une erreur d'Alonso et son équipe.
Mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose?
Franchement, quand tu voyais les images, tu croyais vraiment que c'était long? Alonso, je peux comprendre, parce qu'en effet, avec l'angle de vue, bon, il devait sentir à la voiture hein, que quelque chose n'allait pas. On peut comprendre.
Ouais, il a peur d'être pas.
Mais voilà, mais quand tu voyais les images à la télé, tu croyais franchement que l'aileron, il pouvait tenir 2 tours?
Oui, non, mais il faut remettre quand même la décision dans son contexte. Ils ont tenté, ils ont eu tort, mais c'est facile de dire ils ont eu tort. S'ils avaient tenté que l'aileron avait tenu, on aurait crié au génie, comme on avait crié au génie avec Villeneuve qui roulait avec l'aileron sur le museau pendant plusieurs tours dans les années 80. On avait voilà, ça reste encore un moment génial. C'est un peu facile de juger après, faut quand même remettre la situation dans son contexte. Là, ils se disent, de toute façon, on va revenir dans 2-3 tours. Ils avaient prévu apparemment s'arrêter au 3e ou 4e tour, donc c'est avant même que Vettel, parce que Vettel s'arrête au 5e tour, je crois. Donc ils se seraient arrêtés visiblement avant. Bon, ils se sont dit, on va essayer au moins un tour. On va voir un tour de plus si ça tient. Si ça tient pas, on rentre. Parce que c'est vrai que pour le coup, ça tombait mal, quoi. Parce que voilà, est-ce qu'on change d'aileron en mettant encore des pneus intermédiaires, mais du coup, on va devoir rentrer 2-3 tours après. Donc, on aura fait un arrêt de plus que les autres. Là, on va se battre pour la 10e place. Sauf s'il y a safety car, sauf s'il y a plus.
Ouais,
derrière.
Mais ça pouvait c'était pas inintéressant comme tactique. Jouer la plus.
Moi, je pense sincèrement que comme il a très bien résisté dans le premier tour avec l'aileron, ils se sont dit, on va essayer au moins un tour de plus. C'est vrai qu'Alonso a fait un très bon premier tour avec les longs cassés, mine de rien. Il a bien résisté à Weber. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gens qui lui ont donné des points. Et voilà, ils se sont dit, on va essayer un tour de plus, on verra bien. Bon, bah, on a vu.
Mais ils se seraient pas pris un drapeau pour les rentrer au stand, parce que vu comment les longs étaient.
Bah, ils auraient pu, oui.
Ils auraient pu.
Bah, c'est vrai que c'était dangereux, hein. On l'a vu au freinage. Il suffit que ce soit, ça arrive juste à côté de Weber. Là, comme il va tout droit, ouais. Weber peut pas l'éviter, hein. Ouais.
Ben... Mais de toute façon, on voit à quel point la saison d'Alonso en 2012 était exceptionnelle parce qu'il n'a pas fait une erreur ni son équipe. Et même s'il dit qu'il est encore plus fort cette année, ça va vraiment être difficile de reproduire une saison aussi belle et brillante qu'il a fait l'année dernière. Donc bon.
Ouais, et puis là, mine de rien, il a déjà 22 points de retard, quoi. Donc c'est pas alarmant parce qu'il reste 17 Grands Prix. Mais
ça fait partie de ces jokers grillés, quoi.
Voilà, c'est peut-être pas non plus étranger à ce qui s'est passé chez Red Bull, ça a peut-être joué aussi dans la décision de Vettel de pas écouter les consignes, en se disant, si je peux creuser l'écart sur Alonso, voilà, parce que clairement, depuis le début de la saison, les deux se tournent autour, voilà, Alonso, dès l'après Grand Prix d'Australie, il commençait déjà à attaquer les Red Bull, donc clairement, c'est un peu le duel qui se confronte, quoi, donc...
Et il devrait faire attention, en fait, ça, parce que en 2010, il a payé de se concentrer juste sur un pilote, ça lui a coûté un titre.
Mais même les deux, à se regarder, faut pas oublier qu'il y en a quand même derrière, et je parle... Voilà, ils sont plusieurs, on sait jamais comment la saison peut évoluer, hein. Que ce soit Kimi.
Mais c'est tout le temps comme ça.
Que ce soit Kimi, même Lewis, ouais. Parce qu'après tout, quand on voit la qualité de la Mercedes, ça peut être la surprise de cette année, hein, si.
Ah, surtout maintenant que Lewis est numéro 1 dans son équipe.
Non, même Grosjean, parce que Grosjean, n'empêche, l'année dernière, à ce stade-là, il avait que 6 tours en course.
Oui.
Et là, il les a tous bookés. Et c'est ça le truc, c'est la clé du succès en Formule 1, c'est avant tout la constance. Et là, pour l'instant, il a gagné. Et s'il continue comme ça et qu'il retrouve sa vitesse, il peut être un candidat.
Ah bah, Raikkonen l'a très bien montré l'an dernier.
Ouais.
Cette régularité. On passe à la 7e place. Et justement, okay. Il a marqué 831 points. Comme quoi, c'est pas beaucoup plus qu'Alonso, finalement. C'est Kimi Raikkonen. Alors, je lui ai mis 2 points, mais très honnêtement, c'est au classement parce que... Voilà, c'était pas non plus extraordinaire. Finalement, ces 3 petites places, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup compté, hein, ouais. Sur sa course, parce qu'il s'est retrouvé quand même quelques fois coincé et sur son résultat final, même si d'ailleurs il finit 7e, je me souviens bien de la course.
Mais je pense pas qu'il avait le rythme en course pour rivaliser avec les tout meilleurs, de toute façon. Au mieux, ça aurait été 5e, je pense, s'il était parti de justement sa 7e place. Ouais.
Même sans ça, oui, il était pas dans le rythme. Oui.
Ouais, il était pas dans le coup, là. Ouais.
Dino?
Moi, je l'ai pas mis.
Ouais, moi non plus.
Cette semaine, j'ai pas mis Alonso et j'ai pas mis Raikkonen.
Mais par contre, Dino, tu as mis Romain Grosjean et ça tombe bien parce que Romain Grosjean, lui, finit classé 6e avec 1290 points. Tu lui as donné 8 points comme moi et lui, tu lui as donné 4 points. Donc lui, par contre, ouais. On peut dire, il a fait une course bien meilleure que son coéquipier.
Bien meilleur. Bon, il finit à peine 10 secondes devant lui. Kimi a surtout été bloqué, a eu du mal à dépasser ses concurrents parce qu'il avait vraiment un déficit de vitesse de pointe. Et non, Grosjean fait une bonne course, il finit devant Raikkonen alors qu'il n'a pas les évolutions que Raikkonen a. Il fait pas d'erreur, il fait des dépassements audacieux sans faire vraiment propre. Celui sur Hülkenberg à l'intérieur sur le virage rapide là vers le deuxième secteur était bien. Et je pense qu'il y a un an ça aurait terminé assez mal, mais là il a vraiment bien fait. Et...
Bah il y a un an ça s'était mal terminé. Ah oui.
Non, mais bonne course de Grosjean, il faut qu'il continue comme ça. Apparemment, il a retrouvé un bon feeling avec la voiture, ce qu'il disait après la course. Donc,
est-ce que l'Australie avait vraiment bien. Été catastrophique pour lui.
Hein. Ah ouais. Au moins, il avait fini, ça qui est bien. Même quand c'est pas bien, même quand c'est pas terrible, il faut finir, comme Raikkonen.
Non, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'il ressortait quand même d'une déception après les qualifications et que, il a répondu présent en course. C'est un peu son problème, c'est un problème psychologique quand on l'entendait après l'Australie déjà, entre guillemets, baisser les bras, on pouvait
il
s'inquiéter.
Fragile, hein.
Mais là, non, voilà, là, on sent quand même que bon, après les qualifications, il s'est remis la tête dans l'ordre et puis, il a fait une course sans se préoccuper du reste. Voilà, c'est bien.
Ouais, c'est bien.
Maintenant, il faudra voir sur la suite, mais c'est bien.
C'est pas génial, mais c'est bien.
Passe à la 5e place. Il a marqué 1733 points. C'est Felipe Massa, que j'ai moi-même mis 5e. Dino et Louis, vous l'avez mis 7e.
Vas-y, Dino. Oh
on parle de qui, déjà?
Felipe Massa.
Moi j'ai été déçu. Alors après je sais pas, je peux pas juger la performance de Massa puisque j'ai pas le point de comparaison en course, malheureusement. C'est pour ça que quand Alonso dit qu'il aurait pu viser la victoire, je suis quand même dubitatif parce que quand on voit ce qu'a fait Massa, les pneus avaient l'air de bien tenir le vendredi. Ils ont fait une belle qualif, pourtant en course ça a pas tenu. Donc est-ce que c'est les conditions de piste qu'on fait que...
Il a fait 5 et qu'il pouvait pas faire mieux que 5.
Oui, voilà. Donc,
mais il prend un mauvais départ, surtout. Je pense que c'est ça qui lui...
Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport au Lotus, il a fini devant les Lotus, quoi. Avec une, alors c'est pareil, donc comme en Australie, les Lotus avaient fait un arrêt moins que les autres, je crois. Oui, un arrêt moins que les autres. Donc là, pour le coup, ça a passé devant. Donc ça montre, effectivement, ça confirme un peu ce que disait Ferrari juste avant le Grand Prix. À savoir que comme là ils étaient partis en Australie avec une stratégie à 3 arrêts, ils pouvaient rien faire contre Lotus avec sa stratégie à 2 arrêts, mais sur les autres grands prix ça peut s'équilibrer un peu, la Ferrari est peut-être aujourd'hui peut-être le meilleur compromis entre les qualifs, la course et compagnie. Maintenant faut juste concrétiser ça. Ça a pas été le cas du tout ce week-end.
Ouais, bon, Massa, une course un peu anonyme quand même. Bah, il fait le job. Voilà. Avec Stila, bon, cinquième, c'était quand même le minimum syndical.
C'est le meilleur des autres, hein, finalement.
Ouais.
On va passer au top 4. Parce que oui, cette semaine, on peut parler d'un top 4. Il est quatrième, il a marqué 2210 points. Il roule chez Mercedes. Et...
Hamilton.
Et oui, c'est Hamilton.
Il est numéro 1.
Oui. Je l'ai mis quatrième, comme toi, Louis. Dino, tu l'as mis troisième.
Oui. J'ai laissé devant son coéquipier parce que j'ai voulu sanctionner son coéquipier.
Ah.
Non, je pense pas que Hamilton, je crois qu'il a dit sur la BBC qu'il a commencé à conserver de l'essence à partir du 25e tour. C'était beaucoup plus rapide qu'il espérait, surtout parce qu'il y avait beaucoup moins de pluie qu'il espérait aussi. Et à la fin, Hamilton, il faisait même pas la course. Hein. Il levait à 300 mètres du virage et il freinait.
Ça sentait de toute façon, quand on avait Rosberg qui était derrière lui, derrière lui. Enfin, quand on entendait la manière dont Rosberg ralentissait derrière, c'est vraiment que devant, Hamilton n'était pas rapide. Ouais. Et puis il y a un écart qui s'est creusé en fin de course. Je crois qu'ils finissent à 15 ou 20 secondes, alors qu'à un moment donné, quand même à 10 ou 15 tours, ils sont juste derrière, quoi, les deux Red Bull. Donc ils perdent 15 secondes en 15 tours, quoi. Donc c'est une seconde au tour. Donc,
Après, c'est Brown qui a décidé, ce que Hamilton disait, c'est que Hamilton a été devant la majeure partie de la course. C'était, on va dire, normal qu'il reste devant. Et ouais, quand c'est Brown, t'as Rosberg, il arrive à la radio, il demande est-ce que je peux passer. C'est pas genre Sébastien arrête de faire l'idiot, c'est non, négatif. C'est clair, net.
Ah bah visiblement.
Hamilton a dit aujourd'hui qu'il avait dit à Ross Brawn dans la radio qu'il pouvait laisser passer Nico Rosberg. Ouais. Et Ross Brawn lui a dit quand je prends une décision, tu t'y tiens.
De toute façon, là, même Loda et Wolff se sont retournés contre Brawn. Hein, visiblement, chez Mercedes, voilà, tout va sur Brawn pour cette affaire-là. Même si, bon, a priori.
Bah, Wolff, il a dit que c'était une décision impopulaire, mais que c'était une décision.
Oui, mais il a dit
que c'était une décision
justifiable, mais que c'était pas non plus ça qu'ils attendaient de...
Oui, ils veulent pas faire de voir ça de leur main, quoi.
En même temps, enfin, Ross Brawn, s'ils l'ont gardé la tête, ils sont gentils, mais...
Il va peut-être pas non plus rester très longtemps, pas seulement à cause de ça, d'ailleurs, hein, mais...
Non, puis moi, j'ai envie de dire, sincèrement, en quoi ça serait mal de donner un statut privilégié à Lewis Hamilton. Il est champion du monde, il a 20 victoires en Grand Prix, là où Rosberg, il en a qu'une, il en a 21. Ah, voilà, ça me semble pas non plus honteux d'accorder un traitement de faveur à un pilote. Ils l'ont fait venir aussi pour ça, quoi. Ils le payent suffisamment cher, ils l'ont fait venir exprès. Bon, bah, à un moment donné,
c'est tôt dans la saison, quand même.
Bah, c'est tôt, mais après, enfin, en face, il y a un mec qui s'appelle Fernando Alonso, qui, lui, dès le début de saison, il a une écurie qui fonctionne avec un ordre précis, il est numéro 1, l'autre est numéro 3, il fait ce qu'il veut en qualif, Felipe Massa, mais en course, on peut être sûr que dans les 90% des cas, Massa finira devant Alonso, derrière. Parce que c'est une organisation qui fonctionne comme ça. Donc, voilà, c'est toujours un peu le problème de ces consignes, comme tu disais tout à l'heure, sur la consigne de Rosberg, tu disais, c'est vrai que Lewis Hamilton, il a passé la plupart de la course devant. Oui, mais visiblement, si on avait laissé la course se disputer correctement Rosberg jusqu'à la fin, jusqu'au 56e tour, Rosberg aurait pu être devant. Et donc, c'est toujours un peu le problème de ces consignes. Je vais certainement pas critiquer les consignes, au contraire, je serais malvenu puisque je les ai soutenues et compagnie. Mais voilà, c'est toujours un peu le problème de ces là c'est des consignes particulières, ce c'est pas vraiment des consignes de traitement de faveur, de champion du monde et compagnie, parce que bon, à Hamilton, on se doute effectivement c'est trop tôt pour.
Bah au deuxième Grand Prix, voilà. C'est
pas... Ouais.
Puis même lui, il le demande pas, il l'a jamais demandé, il le demande pas quoi.
Mais c'est ça, c'est Hamilton, lui, c'est pas un Vettel, c'est pas un Schumacher, c'est il veut gagner fair and square quoi, il veut pas qu'il y ait des avantages, il veut vraiment. C'est pour ça qu'il voulait aller chez Red Bull, c'est pour se mesurer à Vettel. C'est qu'il a pas peur lui, contrairement à beaucoup de pilotes, c'est que lui, comme il sait que c'est sûrement le pilote le plus rapide du plateau, il veut faire face au meilleur et il veut pas gagner dans des conditions illicites comme Alonso. Bon, Alonso, bon, il sait qu'il est beaucoup meilleur comme ça, mais bon, Schumacher faisait auparavant.
Mais c'est justement ça, c'est qu'il faut aussi distinguer deux types de consignes. Il y a les consignes de course qui visent à établir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2, ce qui se fait chez Ferrari. Mm-hmm. Et c'est là où Alonso a un petit peu tort d'ouvrir sa bouche juste après le Grand Prix de Malaisie, c'est que c'est pas du tout les mêmes types de consignes. C'est-à-dire que là, clairement, les consignes qu'on a eues ce week-end, ce sont pas des consignes de préférence ou le choix pour le championnat ou quoi que ce soit, c'est juste qu'effectivement on est en Malaisie sur l'un des circuits les plus exigeants pour la mécanique avec des pneus, là on parle quand même de deux équipes qui ont de grosses inquiétudes concernant l'usure des pneus, avec des pneus qui ont montré qu'ils s'usaient très vite. On a même vu Hamilton ce week-end rentrer au stand avec un pneu, on voyait la corde. Donc il y avait vraiment une inquiétude technique sur un circuit exigeant et compagnie. Mercedes a une fiabilité très faible et compagnie, donc c'est vraiment là pour le coup des consignes d'ordre technique, c'est on préserve la voiture, on sauve le résultat, d'autant plus que les principaux rivaux, que ce soit chez Lotus ou chez Ferrari, ne sont pas là pour le moment. Donc voilà, on assure le résultat. Donc là encore, c'est une consigne un peu différente. C'est pour ça que tout le débat sur les consignes, le statut numéro 1 et compagnie, c'est là où Lewis Hamilton a tort de réagir, par exemple, en disant « Ouais, chez Red Bull, ils ont un numéro 1, un numéro 2. » Oui, mais là, la consigne ce week-end t'a montré que t'avais tort, quoi, parce que pour le coup, on a demandé à Vettel de rester derrière Mark Webber. Donc c'est bien qu'il n'y a pas, c'est pas une consigne de préférence de l'équipe ou de numéro 1, mais c'est vraiment une consigne purement de prudence, parce que voilà, les mecs sur le stand, ils ont peur, tout simplement, que ça finisse pas, quoi. Donc...
Mais là, je crois que le résultat, c'était surtout Mercedes qui importait, parce que même si Rosberg passait, bon, c'était trop tard pour taper les Red Bull. Donc au final, c'est quoi? C'est 15 et 12, c'est 27 points. Ils n'allaient pas changer, donc... Ouais, et je pense aussi, ce qui a joué dans la balance, ce qui a posé dans la balance, c'est que Rosberg a pas marqué de points en premier Grand Prix. Et je pense, s'il avait marqué, les points, peut-être qu'il aurait été laissé le droit de passer devant Hamilton.
Mais même Rosberg, dans la manière dont il demande, dont il parle à Rosberg, c'est assez intéressant parce que il lui dit, à un moment donné, il lui dit, s'il te plaît, je veux ramener les voitures à la maison, fais ce que je te demande, prends du recul. Donc c'est, là, pour le coup, c'est vraiment une demande personnelle de Brown. Et c'est vrai qu'on a quand même senti ce week-end que pour Ross Brawn le résultat était important parce que effectivement depuis plusieurs semaines on parle quand même de mettre sa tête de le virer à un moment donné ou l'autre dans la saison pour mettre Paddy Lowe à sa place. Donc voilà, il faut qu'il se défende aussi parce que c'est une équipe qu'il porte depuis des années, il y est depuis l'époque Honda, il l'a détenu. On sent quand même aussi de sa part que c'est quasiment une demande personnelle quoi, c'est on rentre à la maison quoi. On verra après comment ça se passe, mais là s'il te plaît Nico, assure le résultat.
Mais je pense si ça avait pas été Nico et Lewis qui sont quand même potes depuis 15 ans, parce qu'ils sont connus en karting et ils habitent dans le même immeuble, ils font la gym dans la même salle.
Voilà, c'est rare, faut le dire, mais eux on peut dire que c'en est des vrais parce que en effet c'est
pour combien de temps
ça bien sûr.
Non mais ils étaient pareils en karting, je pense que ça va rester. Rosberg, je crois que c'est un type intelligent. Et Hamilton aussi, il lui a dit si c'était l'inverse,
je
l'aurais fait pareil.
C'est pour ça que, en tout cas, pour l'affaire de Mercedes, ça sera pas oublié, mais vite passé. Parce que déjà, de toute façon, dès le podium, on l'a vu, Hamilton, il tirait une tronche pas possible, et il l'a dit lui-même, c'est pas lui qui aurait dû être sur le podium.
Oui, mais ça c'est pareil, ça c'est un peu facile de le dire après coup, parce que c'est bien, mais en même temps, si tu penses vraiment, rien n'empêchait lui d'être dans la voiture, même si Ross Brawn lui dit non, écoute, tu m'écoutes, tu fais ce que je veux, rien n'empêchait de faire ce qu'a fait Vettel. C'est-à-dire, écoutez, moi, s'il estimait vraiment que Rosberg méritait d'être sur le podium, bon, il laissait passer au DRS, il se mettait derrière, et voilà.
Mais il était au ralenti, Hamilton, là. C'est ça.
Lui-même pense que Rosberg aurait dû être devant, ça veut pas dire non plus qu'il va ouvrir la porte grande ouverte à Rosberg.
Dans ce cas-là, tu te tais, tu vas pas dire derrière, il aurait mérité d'être sur le podium. Si tu penses qu'il méritait d'être sur le podium, t'avais les moyens de faire qu'il était sur le podium. Il a eu raison de pas laisser passer Rosberg, parce que ça aurait été une connerie. Mais dans ce cas-là, derrière, qui vient pas entre guillemets jouer les mecs qui est compréhensif et qui dit ah moi j'aurais pu te laisser passer, oui, mais Si t'avais pu, tu le faisais.
On verra hein, s'il lui rend un jour ou l'autre.
Comment il aurait pu faire? Il était déjà au ralenti max.
Il le laisse passer.
Mais comment?
Il baisse une vitesse, il laisse passer Rosberg à côté de lui et il se met derrière. Puisque Rosberg est plus rapide.
Le truc, c'est qu'on avait aussi dit à Rosberg, on l'a bien précisé à Rosberg, tu ne passes pas. Mmh. Et je pense que même s'il avait fait ça, Rosberg il serait peut-être resté derrière la barricade.
Ça n'empêche rien. S'il le laisse passer, Rosberg à un moment donné, il doit se dire, il me laisse passer. Le message il est clair, il me laisse passer. Je reste devant, quoi. Et ça se fait en équipe. Là, à ce moment-là, automatiquement, l'équipe prend conscience que Hamilton laisse passer Rosberg. Donc, ils disent à Rosberg, écoute, Lewis vient de te laisser passer, t'as le chemin libre. Donc, c'est surtout, pour moi, Hamilton a eu raison de pas le laisser passer. Mais, dans ce cas-là, qu'il ouvre pas sa bouille derrière pour dire, il aurait mérité d'être sur le podium.
J'ai quand même l'impression que cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert leur gueule, qui auraient dû se taire.
Oui, globalement.
Eh bien, on va passer à la troisième place. Il a marqué 2227 points. Il est allemand, bien évidemment. Ouais, en effet, ça n'est pas Nico Rosberg, c'est Sébastien Vettel qui est troisième. Personnellement, je l'ai mis deuxième. Louis, tu l'as mis troisième. Dino, tu l'as mis premier.
Il a gagné le Grand Prix, non?
Non, mais moi, je le mets trois. Parce que il fait globalement un beau week-end, il fait une belle pole position. En course, il était solide. Et jusqu'à 10 tours avant la fin, il aurait été premier facile, mais ce qu'il a fait à la fin, je pouvais pas le mettre premier. Après toi Dino, tu l'as mis premier, mais moi je pouvais pas.
Alors moi je tiens à dire, je l'aurais mis premier de toute façon avant quoi qu'il arrive, parce que pour plusieurs raisons. La première c'est que ça fait quand même des années qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui est aidé par son équipe et compagnie.
Ah bah là.
Là pour le coup il a pris un risque, c'est-à-dire que dans le feu de l'action il a pris une décision, il a ouvertement pris un risque de se mettre à dos son équipe. Alors après on peut accepter ou pas le risque, on peut trouver je pense sincèrement qu'il a fait une bêtise, il s'en est rendu compte, mais
après,
au moins il a pris un risque et surtout il a montré que il avait pas peur justement de prendre des risques, que ce soit en piste mais aussi des risques de
en plus il est passé chouchou par chouchou frappe,
Oui, mais... ouais, en plus
Il était même pas conscient de ce qu'il faisait. Il avait tellement envie de gagner, c'était tellement maladif chez lui. Je pense qu'il est même pas conscient, parce que quand il sort de la voiture, qu'il enlève son casque, on voit.
Maladif, je retirais quand même un argument, parce que, alors, je tiens pour le coup à défendre Vettel, avec un argument béton. Alors, vous allez voir, cet argument-là, vous allez même pas pouvoir le contredire. C'est impossible. Je suis tombé dessus aujourd'hui, c'est impossible. Et même Mark Webber, please, if you listen to me today in the show, you will remember the Grand Prix of Grande-Bretagne 2011. Il va falloir qu'il s'appelle le Grand Prix de Grande-Bretagne 2011, où il avait déclaré ceci en terminant troisième derrière Sébastien Vettel, alors qu'il avait reçu des consignes de course pour ne pas attaquer Vettel sur la fin de la course, et qu'il avait attaqué Vettel. Il avait déclaré ceci après la course: je ne suis pas d'accord avec ça. Si Fernando avait abandonné au dernier tour, nous nous serions battus pour la victoire. Bien sûr, j'ai ignoré l'équipe parce que je voulais essayer et gagner une place. Sébastien et moi faisions de notre mieux. Je n'allais pas m'accrocher avec qui que ce soit. J'ai essayé de faire de mon mieux pour passer le gars devant moi. C'est tout simplement ce qu'a fait Sébastien Vettel ce week-end. C'est exactement la même chose. Alors, on peut apprécier ou pas ce type de comportement, mais s'il y en a bien un qui m'a gonflé ce week-end à avoir le comportement qu'il a eu à faire la pleureuse et compagnie, c'est Mark Webber, qui n'est certainement pas celui qui peut se permettre de venir faire la leçon à Sébastien Vettel, alors que lui-même, il y a 2 ans, avait fait le même coup pour la 2e place, et avait tenu le discours de, pour la victoire, grosso modo, il n'y a pas de coéquipier, il n'y a pas d'équipe.
En plus, donc, parce que par rapport au danger de la chose et tout ça, c'est lui aussi qui passe un peu Vettel, il a fait un peu une Schumacher-Barrichello.
Ouais, mais c'est lui aussi qui abandonne à la fin, qui laisse passer Vettel, parce qu'il sait que ça va finir en autre boudin.
Voilà,
non, mais le truc, c'est que c'est totalement différent, parce que là, c'était décidé avant la course, que après
mais
le dernier stand.
Mais c'était pareil à l'époque. C'était pareil à l'époque. Quand tu écoutes toutes les équipes, que ce soit chez Mercedes ou chez Red Bull, c'est la consigne qui passe à chaque fois, qui est discutée avant chaque Grand Prix, c'est tout le temps pareil. C'est dans ces équipes-là, c'est la consigne. Si t'es devant ton coéquipier, au dernier arrêt, on te laissera devant. Et ça, c'est discuté à chaque fois, c'est immuable. Et ça a toujours été le problème entre guillemets chez Red Bull, c'est que Red Bull, ils ont un logiciel qui est on peut rien leur reprocher là-dessus, qui est qu'ils ont toujours traité à égal égalité leurs pilotes. Voilà. Le problème, c'est que ce logiciel, il a bien fonctionné en 2010. Voilà, on a laissé les pilotes se battre. Vettel a été champion. En 2011, ils n'ont pas eu besoin de le mettre à jour, le logiciel, puisqu'il s'est mis un peu à jour tout seul, puisque Vettel a écrasé la saison et a écrasé Weber. En 2012, bon, il n'y a pas non plus, besoin non plus de mettre le logiciel à jour, parce que Vettel a été légèrement supérieur tout au long de la saison et a très vite fait la différence à mi-saison avec Weber. Là, cette année, on se retrouve dès le deuxième Grand Prix en position où Vettel, triple champion du monde, se retrouve derrière son coéquipier et on lui demande de rester derrière.
Non mais
derrière.
C'est ça le truc en plus, dans toute cette
affaire. Il faut
juste
se mettre un peu à la place de Vettel. Vettel est triple champion du monde. Il estime que il a pas volé ses trois titres. Il estime en plus, et pas forcément à tort, que Weber lui a pas nécessairement été d'une grande aide par le passé dans l'obtention de ses titres et compagnie. Il estime en plus, alors je sais pas s'il le pense sur le coup, mais mine de rien, il y a un historique, et même Weber l'a dit, il y a un historique entre les deux, donc je pense que ça joue. Il se rappelle quand même que Weber s'était pas gêné pour l'attaquer malgré des consignes de course, donc bah oui, c'est un pilote à ce moment-là qui se dit, mais pourquoi j'irais respecter cette consigne-là? Lui, il les respectait pas à une époque, je suis triple champion du monde, il se sent légitime pour le faire. Là, ce qui fait qu'il a pas mesuré et qu'il a compris, qu'il s'est vite excusé, c'est que je pense qu'il se fout complètement de savoir si ça a vexé ou pas Weber. Je pense que si
il s'excuse. Il vient quand même de grave foutre la merde dans son équipe.
Oui, mais non, mais je pense que c'est pour ça. Je pense que il a été surpris de la réaction. C'est-à-dire qu'il pensait que c'était légitime de sa part, parce que aussi Red Bull, depuis des années, faut pas se cacher, lui fait sentir qu'il est légitime en tout, que même à la tête de Red Bull, il y a deux discours, celui d'Helmut Marko, qui dit que Weber est un numéro 2, et celui de Christian Horner, qui dit que, non, Weber, il a les mêmes chances que Vettel. Donc c'est un mec qui est dans sa tête, se dit, après tout, je suis légitime, la consigne, je suis pas obligé de faire avec. Et sauf que là, il s'est rendu compte que, bah oui, mine de rien, fallait peut-être la respecter, parce que, même si triple champion du monde, même avec tout l'amour que l'équipe peut lui porter, bah oui, ça a beaucoup blessé l'équipe et il a perdu, sincèrement, ce week-end, il a perdu une partie de l'équipe qui pouvait le soutenir parce que tout le monde s'est senti trahi parce qu'il a fait passer ses intérêts en premier. Donc voilà, pour moi, il a fait une boulette. Maintenant, cette boulette, je pense sincèrement qu'on peut la comprendre et je pense sincèrement que on peut pas non plus donner à Weber tout le crédit qu'on lui a donné depuis deux jours parce que Weber, c'est un peu son habitude. Il joue toujours un peu les blanches colombes. Là encore, sur le podium, il a dit on va encore pardonner à Vettel
le podium,
et compagnie.
Mais c'est juste énorme. C'est-à-dire que à l'interview, t'as Vettel qui dit oui, on va voir ça avec l'équipe. Sous-entendu, on va laver le linge sale en famille. Qui dit pas grand chose, et tout juste après t'as Weber, et Weber lui il balance tout, et comme tout le monde regarde.
Le pire, c'était dans la petite salle d'avant podium. Il y a Weber qui arrive, qui va saluer Hamilton, il ignore totalement Vettel qui
a fait une connerie. C'était ubuesque, entre Hamilton qui était dans sa voiture, qui genre putain qu'est-ce qui s'est passé, et l'ambiance glaciale entre les deux Red Bull.
Et tu vois bien Weber qui regarde Vettel dans les yeux et qui lui dit multi 21, c'est
oui. multi 21.
Ouais.
Mais c'est bon. Là aussi où faut pas oublier que Weber est quelqu'un qui a aujourd'hui 12 saisons en Formule 1. Moi je le rappelle quand même, l'an dernier il a pas mal profité des incidents de Grosjean pour mettre la pression un peu sur Grosjean dans des déclarations dans la presse, et qui est très conscient, c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui est très conscient. Et sincèrement, pour moi, il a le potentiel d'être un champion. C'est peut-être un peu tard, mais il a le potentiel pour être un champion du monde, parce qu'il a cette qualité. Il est politique, et aujourd'hui pour être champion il faut savoir être politique. Et il sait très bien utiliser les médias et compagnie. Et il l'a encore très bien fait ce week-end, parce qu'il a réussi à mettre tout le monde à dos. Il a réussi à faire que Vettel se mette tout le monde à dos. Là où je pense sincèrement que c'est pas non plus aussi répréhensible que ce que tout le monde veut le dire. Voilà, quand je lis certains commentaires, c'était maladroit, c'était dégueulasse envers l'équipe, parce qu'effectivement il a passé ses intérêts en premier. Maintenant envers Weber, sincèrement, dans l'échelle des crasses qu'ils ont pu se faire en tant que coéquipiers, bon, c'est peut-être en tête, mais c'est pas très très loin devant le deuxième ou le troisième, quoi, nous.
Mais le problème, c'est que Vettel l'a fait en traître, c'est qu'il a même pas répondu à son équipe. Il a dit d'ailleurs en compte de presse, il a pas compris, c'est qu'il a ignoré totalement le message. Alors, Weber, il était en conservation de moteur, enfin, comment ils font tous à la fin, là. Il était tranquillement, il allait se diriger vers la fin, là, il voit Vettel qui arrive, qui essaie de l'attaquer, je crois que déjà, il est surpris. Et c'est ça le problème. Il avait déjà fait perdre en 2010 en Turquie quand ils se rentrent dedans parce que Vettel et justement que Hamilton gagne. Je sais pas si vous en souvenez.
Mais d'ailleurs c'est très similaire parce que on se rappelle en Turquie en 2010, Vettel tente le truc parce qu'il voit aussi derrière lui les deux McLaren
Hamilton
revenir.
Qui arrive.
Et là c'est pareil. Le moment où il porte son attaque, c'est qu'il voit derrière les deux Mercedes qui sont pas loin. Et ça joue aussi peut-être aussi dans la décision, c'est qu'il se dit à un moment donné, il me retient. Même si l'équipe le dit, à ce moment-là comme il se sent légitime et compagnie et qu'en plus il est sur la piste. Et qu'il est au volant, il dit pour le coup je tente quoi, parce que sinon je vais me faire rattraper par les deux autres et je vais devoir me défendre contre les deux autres, je vais devoir protéger mes mères et là c'est encore pire.
Mais au final, là, je pense que Vettel, déjà, il n'était pas très populaire, malheureusement.
Ah bah
il
n'est
pas reconnu à sa juste valeur. En Allemagne, notamment, où il n'arrive pas à faire oublier Schumacher, parce qu'il lui ressemble justement un peu trop. Là, il va en prendre un gros coup au niveau de la popularité. Là, je crois qu'il s'est fait huer, non, par le public, il me semble. T'as tous les grands pilotes comme Jackie Stewart, tout ça, qui disent que avant ils avaient du respect, ils pensaient que c'était le pilote le plus intelligent de 25 ans qu'il avait jamais vu. Maintenant ils pensent plus ça. Il a perdu plein de crédibilité aux yeux de plein de gens et des gens importants. Et je crois que ça va laisser des grosses traces, pas très belles dans l'équipe pour les grands prix à venir, parce qu'il y a Weber qui a pu faire confiance à personne.
Mais même Weber,
senti totalement lésé. Et Vettel, je crois qu'il va même psychologiquement, il va en prendre un gros coup parce qu'il sait pas si l'équipe va être avec lui.
Weber,
je pense que justement Alonso devrait en profiter.
Weber peut avoir Weber, il peut encore avoir la conscience de l'équipe, parce que c'est pas l'équipe qui l'a trahi. Par contre, entre eux deux, c'est surtout entre Vettel et l'équipe, et entre Vettel et Weber.
Je pense que aujourd'hui, l'équipe va se mettre peu à peu autour de Vettel, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés de faire le pas qu'ils ne font pas depuis 2 ans, et que mine de rien, c'est aussi, il y en a un qui sort vainqueur de cette histoire-là, c'est Fernando Alonso, et c'est pour ça qu'il se réjouit, que ça s'amuse, parce que c'est la confirmation de sa méthode. On peut pas avoir deux chiens fous dans une équipe. C'est pas productif parce que ça génère effectivement ce type de situation, même si c'est très beau et que ça nous fait vibrer, ça devient très vite pas vivable et ça devient vite très pesant pour un championnat, pour une équipe et compagnie. Donc aujourd'hui, celui qui peut se féliciter, c'est Alonso, quoi. Oui, aujourd'hui, pour être une équipe de Formule 1 de points, il est nécessaire de nommer un numéro 1 et je pense qu'aujourd'hui, Red Bull, fondamentalement, n'a peut-être pas de choix s'il veut gagner le titre. Le meilleur pour pouvoir leur donner, ça va quand même rester Sébastien Vettel, et c'est aussi plus légitime parce qu'il est triple champion du monde, parce qu'il en est à sa 27e victoire en Grand Prix,
comme
Jackie Stewart, ce qui est pas anodin parce que ça a longtemps été pendant quasiment 20 ans le record. Voilà, donc je pense que ça va, c'est-à-dire que l'impact, ça va être nécessairement une remise en cause de toute l'équipe, parce que fondamentalement cette situation-là, on peut condamner Vettel, mais c'est un peu à l'époque des problèmes de Lewis Hamilton. C'était, on peut s'attaquer à Lewis Hamilton et son comportement, bon, d'accord, c'est pas très productif. Après, faut essayer de savoir pourquoi. Et je pense que là, il va falloir commencer à réfléchir de pourquoi Vettel a fait ça, pourquoi cette situation est arrivée. Et ben peut-être se poser la question de la responsabilité de l'équipe, ne serait-ce même de demander à Helmut Marko qu'il ferme sa gueule. Et de laisser parler seul Christian Horner, qui est le patron de l'équipe, parce qu'aujourd'hui il y a deux discours chez Red Bull qui sont pas toujours sur la même longueur d'onde, notamment sur le rôle de numéro 1 ou de numéro 2 de tel ou tel pilote. Donc il y a forcément, ça va peut-être être bénéfique justement pour aider Red Bull à passer dans le cap, dans le stade des équipes, des vraies équipes de Formule 1 historiques qui ont pour la plupart du temps pris un champion, mis un deuxième pilote à côté.
Ouais, non mais bon, ça, sur ça, je suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que là, Alonso, je crois pas qu'il se fie ici, comme tu dis, que ça soit son système qui marche. Moi, je pense qu'il est surtout très content, c'est qu'il va pouvoir profiter de ce qui se passe chez Red Bull. Et je pense que ça va être un gros avantage, parce que là, je pense que ça va laisser des traces dans l'équipe, mais vraiment,
je pense pas qu'Alonso s'en félicite. Je pense juste qu'aujourd'hui, le vainqueur, celui qui gagne, c'est Alonso. Ouais. D'abord, parce qu'il va pouvoir profiter effectivement des brouilles internes. À la fois chez Mercedes et chez Red Bull, c'est dans tout son intérêt. Surtout chez Red Bull. Et en plus, c'est aussi le vainqueur parce que oui, mine de rien, depuis des années, on lui reproche de faire des équipes autour de lui. Bah, on voit que justement, quand on fait pas une équipe autour d'un de ses champions, à un moment donné, ça génère des problèmes parce que c'est des mecs qui ont des égos, quoi. Tous les pilotes ont des égos surdimensionnés. Quand t'es triple champion du monde, tu te sens quand même un peu légitime et tu t'interdis pas de marcher sur ton coéquipier. C'est ce que fait Alonso ouvertement et c'est ce qu'a essayé de faire Vettel cette année, mais ça a peut-être été trop brutal pour le coup.
Rien d'autre à dire, notamment sur le reste de la course, parce que la course Vettel se résume pas qu'à sa fin de course, justement.
Bah, tout part en fait de son changement de pneus lorsqu'il monte les pneus pour piste sèche. Un peu trop tôt, peut-être un tour trop tôt.
Très bon résultat quand même par rapport au début du week-end. Par rapport au temps qu'ils aux essais libres. Franchement, on s'attendait pas à ce que Red Bull soit flamboyant. Ils font la pole, ils font le doublé. Ça, c'est quand même très impressionnant.
Ouais.
Je vous propose de passer à la deuxième place. 2433 points. Eh bien oui, c'est Nico Rosberg. Nico, je lui ai donné 15 points. Dino, tu lui as donné 12 points. Louis, tu lui as donné 18 points. J'ai envie de dire, on l'a vu.
Non, mais que sur la fin, en fait. Parce que sur le début, il fait pas une course sensationnelle.
Il était plus rapide qu'Hamilton. On le voyait, à chaque fois, les commentaires le disaient. Hamilton faisait le meilleur tour. Et juste après, Rosberg le reprenait.
Mais sur la fin,
Globalement, sur le week-end, sur le sec, il était plus rapide.
Je pense sincèrement que Hamilton. C'est justement ce que paye Hamilton. C'est qu'Hamilton démarre peut-être trop fort la course. Là où Rosberg gère peut-être un peu davantage la course. Donc sur la fin, ça fait la différence, quoi.
Il a dû économiser son carburant au bout du 25e tour. C'est surtout ça son problème. À la base, c'est l'équipe qui juge mal.
Mais oui, mais ça peut peut-être aussi la consommation. C'est pas que l'équipe. Ça peut être aussi le pilotage. Il est pas non plus à écarter.
Apparemment, il jouait peut-être aussi un peu
Hamilton
la pluie et la
démarré un peu trop fort la course.
Ouais, voilà.
Parce que mine de rien, sur le début de la course, sincèrement, Rosberg, on le voit très peu. On le revoit effectivement à partir de la mi-course, au moment où Hamilton commence à gérer, au moment où les écarts se resserrent peu à peu devant. Et c'est là qu'on commence à le revoir. Et c'est aussi une partie de la donne. Et c'est aussi ce qui est dommage, quoi. C'est que fondamentalement, la fin de course, Rosberg, il a commencé à la travailler peut-être dès le début, en ayant une conduite un peu plus sobre, et ce qui fait qu'il aurait peut-être davantage mérité d'être sur le podium ou de faire un meilleur résultat que Hamilton sur la durée de la course. Mais le problème, c'est que comme les équipes ont eu peur pour les mécaniques et pour le carburant, pour les pneus et compagnie, en fait, ils ont raccourci la durée de la course. C'est comme si en plein milieu de la course, on disait, en fait, elle fait que 45 tours la course. Bah oui, mais du coup, le mec a préparé son début de course en étant économe. Tout ce qu'il a sacrifié au début, il le paye pas à la fin, quoi.
Rosberg, là où il peut surtout se mordre les doigts, c'est en qualif. Et c'est le même problème qu'en Australie. J'ai l'impression que Rosberg, dans les moments les plus intenses où il faut vraiment sortir le tour au dernier moment, comme en Australie ou là, il a tendance un peu à sous-performer. Alors qu'Hamilton, on sait tous, sur un tour, il est très très fort et il a jamais peur d'y aller, quoi. Enfin, et je pense que c'est surtout là, parce que Rosberg était meilleur que Hamilton sur le week-end. Donc s'il avait vraiment été meilleur, il aurait été devant Hamilton et il aurait jamais eu le problème de savoir s'il devait rester derrière lui ou pas. Donc c'est surtout là le problème, je crois, fondamental pour Rosberg ce week-end.
Mais Lewis Hamilton, c'est pas non plus surprenant de le voir devant Rosberg en qualif, quoi. On sait très bien, c'est l'un des pilotes les plus rapides en qualification. C'est vraiment son gros point fort. Donc, faut s'attendre à un bilan quand même d'Hamilton par rapport à Rosberg qui soit
positif.
Soit quand même plutôt positif, ouais. Moi, Rosberg, j'ai mis 4e, je l'ai laissé derrière Hamilton, justement parce qu'il n'a pas fait ce qu'a fait Vettel. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un peu facile derrière de dire, j'espère que vous vous en rappellerez. Ça, c'est les discours que tenait Rubens Barrichello, et qui, au bout de 3 ans chez Ferrari, disait, dis donc, ils m'ont pas rendu l'appareil. moi, je pars du principe, si tu veux quelque chose, va le chercher tout de suite, quoi. C'est dès le début qu'il faut marquer son territoire. Et à être un peu trop gentil, moi, j'ai un peu peur que Rosberg, il nous fasse un peu comme Felipe Massa avec le Grand Prix d'Allemagne en 2010. Il a un peu baissé la garde, il s'est mis au service de l'équipe, et malheureusement, j'ai envie de dire, il suffit qu'il abandonne en Chine, parce que déjà, il a du retard en point derrière Hamilton, il suffit qu'il abandonne en Chine ou qu'il fasse quelques grands prix derrière Hamilton en termes de résultats, l'écart de points va se creuser. Puis à un moment donné, si jamais on voit que Fernando Alonso et que Red Bull se réveillent un peu et que il y a peut-être une carte à jouer au championnat, on va peut-être décider de désigner Hamilton premier pilote. Donc voilà, tu sais jamais ce qui peut arriver. Et puis très vite, si Hamilton fait une bonne saison et compagnie, qu'il a bénéficié d'un statut numéro 1 parce que on a décidé de jouer la carte, ça peut s'installer sur le long terme. C'est ce qui est arrivé à Massa. Massa, peu à peu, il n'était pas très loin derrière Alonso au début. Puis il a accepté en Allemagne de laisser passer Alonso. Et ça a été début de la fin parce qu'il a accepté de jouer le rôle du numéro 2. Et ça me fait chier parce que j'ai l'impression que Rosberg, il a fait ça ce week-end et que il a dit j'espère avoir l'appareil. Et sincèrement, je pense que sauf si vraiment la Mercedes n'a pas d'enjeu cette année, je pense qu'il n'aura pas l'appareil.
Non, mais moi je pense que si ça avait été Schumacher, ça aurait été complètement différent. C'est surtout parce que c'est Hamilton. Et comme, je crois qu'il y a aussi ça qui joue beaucoup dans l'histoire. Si ça avait été Schumacher, je pense qu'il serait passé. Il n'en aurait rien à foutre.
Il y aura peut-être même
mais comme c'est Hamilton, comme c'était Hamilton, je pense qu'il n'osait pas le faire parce que je pense justement il y a l'idée d'amis et d'amitié qui
est passée
dans sa tête.
Ça va le perdre. Hein. Si à chaque fois il pense qu'il est ami avec Hamilton, ça va le brider sur pas mal de trucs. Hein, parce que
alors oui, je pense que ça s'est joué. Si ça avait été Schumacher ou un autre, je pense qu'il serait passé. Mais comme c'est Hamilton,
ouais, mais justement, c'est ça le problème, c'est que ça ne devrait pas jouer.
Bah oui.
Et c'est ce qui montre. Mais sincèrement, je pense que à sa place, Hamilton, il a pas de remords en piste. Hamilton, s'il faut attaquer Rosberg, il attaquera Rosberg. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est qu'on se rappelle quand même du Grand Prix du Bahreïn l'an dernier où Hamilton, où Rosberg n'a pas hésité à forcer Hamilton à passer à l'extérieur. Donc pour ça que je pense que le lien d'amitié, oui, ouais, mais bon, déjà par le passé, ils se sont fait bataille, c'est des grands garçons, ils ont beaucoup de respect, donc je pense sincèrement, c'est qu'il a pensé à l'intérêt de l'équipe. En priorité, et que c'est peut-être ce qui va lui perdre, parce que l'intérêt de l'équipe, si à un moment donné l'intérêt de l'équipe c'est de favoriser Hamilton, bah il l'aura dans l'os. C'est à espérer pour lui que très vite il puisse quand même revenir au niveau d'Hamilton et qu'il ne s'enferme pas dans un rôle de numéro 2 de facto.
Il est trop rapide pour ça, je crois.
Ça veut rien dire. Sincèrement, on le voit aujourd'hui avec Massa en qualification, il est dans les temps d'Alonso, il a jamais véritablement été très loin d'Alonso. On sait très bien que l'écart des années d'avant, c'était parce qu'Alonso bénéficiait du meilleur matériel, parce que Ferrari était obligé de se concentrer sur un seul pilote. Dès qu'on se concentre sur les deux pilotes, ce qui arrivait en fin de saison dernière et ce qui arrive en début de saison, l'écart automatiquement se réduit, et ça c'est normal. Donc on sait très bien que la rapidité, c'est pas tout en Formule 1. Malheureusement, si la rapidité suffisait, on aurait Bianchi dans une Formule 1.
Et qu'il en profite, Rosberg. En plus, avec l'arme qu'il a, c'est peut-être une des meilleures voitures dans lesquelles il a roulé cette année.
Ouais.
Bah, l'année prochaine, je pense, ça peut être encore meilleur.
Mais l'an prochain, c'est l'an prochain. On sait pas ce qui peut se passer.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Là, au moins, après deux grands prix, je dis pas qu'on sait ce qu'elle vaut, mais on sait qu'elle est rapide. Il aura peut-être pas plus tout le temps, un peu comme un Massa ou quelque chose comme ça. Il aura peut-être pas tous les ans l'occasion peut-être de pouvoir battre Lewis Hamilton.
Oui. Et puis même pour Mercedes, ça risque peut-être d'être un petit casse-tête aussi, parce que la voiture semble meilleure que ce à quoi ils attendaient. Ils vont peut-être se demander, est-ce qu'on joue la saison ou est-ce qu'on part sur 2014? mine de rien, c'est peut-être des questions qui vont commencer à se poser. Hein.
Normalement, eux, ils ont les moyens pour développer la voiture l'année et bien préparer l'an prochain.
Toutes les équipes vont se poser cette question, je crois. Donc bon.
Et donc, à la première place, vous en doutez, c'est Mark Webber, 3558 points. Je l'ai mis premier, comme Lumi. Dino, tu l'as mis deuxième.
Bah, il a fini deuxième.
Non mais ouais, moi je l'ai mis premier parce que bon, sur la course, en tout cas jusqu'au moment où il devait pas au multi 21,
le fameux multi 21,
ouais, il était devant Seb.
Faut quand même con comme les équipes. Ils ont le droit de passer des consignes. Pourquoi ils utilisent des codes? Ils auraient dit directement à Sébastien, et Sébastien, tu restes derrière Weber. C'était clair, c'était pas illégal et il était bon quoi. Là au moins Vettel, il comprenait le message. Multi 21, il peut dire, oh, je me rappelais plus, je confondais avec multi 22 ou multi 33.
Ouais, je pense que Weber, on sait tous que bon, c'est sûrement, sans doute, sa dernière saison en Formule 1. Oui. On sait que sur une saison, il a pas la constance et la vitesse pour jouer le titre. Sauf en 2010 où il était étonnamment rapide et très proche de Vettel. Je pense que bon, il aurait pu au moins lui laisser celle-là. Comme un genre de dos d'adieu. Enfin, je sais qu'entre eux, bon, ça, je pense pas qu'ils vont faire des cadeaux.
Surtout pas maintenant.
Tiens, Marc.
Non, mais je pense, ouais, il aurait pu au moins lui laisser, voilà. Pour c'était pas. Et je pense que Red Bull pensait la même chose. Bon, on sait qu'il va pas en gagner il va pas en gagner 5 cette année. Weber, il va en gagner peut-être une ou deux. Et bon, ça aurait fait partie de celle-là. Et bon, je trouve ça dommage parce que bon, Weber, c'est bon, c'est pas un mec. Dans 20 ans, tu vas parler à ton gosse, se dire, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait Weber, il était génial. C'est un solide pilote de Formule 1 qui a eu la chance d'atterrir chez Red Bull, qui faisait des résultats contre, qui a tenu tête à Vettel une saison, ce qui est déjà en soi un exploit, Bourdais en sait quelque chose. Et non, franchement, bon, voilà, moi pour ça, je pense qu'il aurait mérité de gagner et commencer de toute façon, ça, au final, ce sera Vettel qui va jouer le titre.
Non, puis
ça aurait rien changé.
Pour Red Bull, que ce soit Weber qui gagne, de toute façon, c'est tout bénef. À partir du moment où ils font 1 et 2, ils récupèrent le max de points au championnat constructeur. Ouais, c'est celui-là qui compte vraiment pour eux. Non, pour eux, c'est important que Vettel défende le titre parce que il va rapporter le maximum de points possible. Mais pour eux, voilà, 1 et 2, ils se sont dit, c'est le début de saison. Voilà, Weber est devant, il n'y a pas de souci, quoi.
Mais c'est tout le problème de cette équipe qui depuis des années déclare que les pilotes sont à égalité. Sauf que là, alors que techniquement, on a bien vu, ça les a pas empêchés de se battre et de finir la course et même d'avoir une confortable avance devant les Mercedes. Donc ils n'étaient pas vraiment exposés finalement. C'est un peu le problème de cette équipe qui, parce que alors Weber a bien indiqué que c'était après l'arrêt au stand que on lui a donné, on lui a dit que on gelait les positions et qu'on demandait à Sébastien Vettel de rester derrière.
Ce qui est logique, hein.
Ce qui est logique. Sauf que, comme par hasard, le dernier arrêt au stand, c'est le fameux arrêt où Weber ressort juste devant Vettel et où il y a le début de bagarre. Donc on peut très bien penser que aussi ce qui a fait tilt dans la tête des mecs de Red Bull, c'est de se dire, bon, ils viennent de se bagarrer à la sortie des stands, on calme le jeu. Et c'est ce qui est un peu le problème, c'est-à-dire que pour le coup, oui, effectivement.
Tu vas pas jusqu'à dire que pour eux, normalement, à la sortie des stands, c'est Vettel qui devait être devant?
Non, mais c'est que je pense sincèrement que quand ils ont vu cette bagarre-là, ils ont pas eu peur pour la mécanique, c'est qu'ils ont juste eu peur que les pilotes se foutent dans le mur.
Oui.
Et là, pour le coup, c'est pas avoir confiance en tes pilotes à ce point-là, c'est quand même grave, je trouve. Voir la tête de Adrian Newey sur le mur à des stands qui se mettait la main dans la tête, mais effectivement, ils ont rien à perdre, ils font 1-2. Laissez vos pilotes se battre. Au moins, dites-leur, voilà, vous avez deux tours. Celui qui, au bout de deux tours, vous avez commencé à vous battre à la sortie des stands. Celui au bout de deux tours qui est devant, ou au bout de cinq tours qui est devant, on gèle les positions, vous auriez votre chance. Mais là, on a l'impression vraiment qu'ils ont même pas donné la chance aux pilotes de se défendre. Ça s'est joué à la sortie des stands, et derrière, on s'en foutait de savoir, parce qu'en plus, ils étaient sur des stratégies différentes. Vettel avait des pneus durs qui étaient plus rapides que Weber. Donc voilà, on a vraiment l'impression qu'ils ont eu peur de la bagarre, en fait. Et c'est quand même dire qu'ils ont conscience qu'il y a un problème entre ces deux mecs-là en piste, et que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, et ça fait 5 ans qu'ils ne résolvent pas ce problème. Ils passent leur temps chez Red Bull à discuter. On va régler ça en interne. On fait la grande lessive en interne. Et fondamentalement, le problème se répète à chaque fois. Et voilà, le non-respect de consignes. Là, on en parle pour Vettel. Ça a été le cas pour Weber avant. Il y a déjà eu des accrochages avant. Et ces trucs, c'est que visiblement, ils n'arrivent pas à gérer ce problème-là. Ce qui leur manque peut-être, c'est un Rose Brown. C'est un mec qui est capable à la radio de c'est ce qui manque, et c'est ce que dit d'ailleurs
un mec qui en impose,
c'est ce que dit John Watson, quoi. Il dit alors John Watson, lui, il veut carrément suspendre Vettel d'une course,
trop loin, ouais.
Mais c'est ce qu'il dit, aujourd'hui l'autorité de Red Bull, de Christian Horner, elle est en cause, et c'est vrai que par exemple un Rose Brown, entendre Rose Brown dire à Hamilton tu fais ce que je te demande en Pensetto voilà, c'est peut-être ce qu'il faut à cette équipe, c'est peut-être ce qui manque. Christian Horner, c'est bien, c'est un type de management qui est coulant et compagnie, mais il manque à un moment donné où il tape du poing sur la table. C'est pas en disant à Vettel ce que tu fais, c'est idiot, que vraiment tu changes les trucs.
Ah bon, l'argument de Horner, justement, lui a posé la question après la course, pourquoi vous avez pas dit à Vettel d'arrêter? Et il a dit comme argument, est-ce que vous pensez vraiment qu'il aurait arrêté d'essayer de piquer la première place à Weber? Ça veut tout dire, c'est bon, voilà, c'est ce que tu viens de dire, quoi.
C'est ça, c'est ce qui est terrible. Il contrôle ni Weber, hein, ni Vettel. Là, Vettel, ça s'est vu sur la piste, mais Weber, il s'est pas dérangé pour, voilà, des déclarations à la radio ou des déclarations dans la presse. Là, sur le podium, il se dérange pas. C'est, lui aussi, il porte atteinte à l'autorité de Red Bull, quoi. Donc, voilà, il contrôle personne. C'est vraiment, il y a une remise en cause à faire en interne, quoi.
Faut qu'il la fasse vite, parce que si ça part en vrille et qu'il règle pas ça, imaginez un peu le bordel que ça risque d'être s'ils ne le font pas. Parce que c'était juste une consigne, mais si vraiment c'est la guerre de tranchées avec deux équipes Red Bull ou une équipe, mais alors vraiment complètement pour Vettel que plus rien pour Weber, oh mon Dieu.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas deux équipes, je pense qu'il n'y aura qu'une équipe et qu'elle va tourner autour de Vettel.
Oui, mais
parce qu'à un moment donné,
t'as
quand même la raison. S'ils ont passé autant de trucs à Vettel, c'est que aussi ils savent très bien que, parce que Vettel c'est pas un ange, s'ils ont passé autant de trucs ces dernières années, c'est qu'ils savent très bien que Vettel c'est le mec qui peut leur permettre aussi d'être champion, quoi.
Mais
donc,
pour le coup, Weber peut dire, il y en a marre que justement, on passe tout à Vettel.
De toute façon, c'est sûr, c'est sa dernière année. Maintenant, je vois pas comment il pourrait rester une année de plus là-bas.
Quand on lui a parlé de son avenir, il s'est dit, je serai là au Grand Prix de Chine.
Ah bon? Ah, je crois.
Faut faire gaffe, il y a 3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses.
Marc Weber chez Ferrari. Ah, t'as des
blagues? Oh non, là, ils ont pas de raison d'enlever Massa en ce moment.
Pourquoi la place de Massa?
Oh, mais dis donc. Au classement, Kimi Raikkonen est toujours devant, 31 points, devant Vettel, 27, Weber, 26, Massa, 25, Hamilton, 22, égalité avec Alonso, Rosberg, 20. Au classement des équipes, Red Bull a 53 points, devant Ferrari, 47, Mercedes, 42, Lotus, 39, largement devant Force India, qui a 8 points. Notez que McLaren a 2 points et derrière Marussia. Ils sont devant Williams et Sauber. C'est déjà ça.
McLaren devant Williams, c'est Sauber, quoi.
C'est habituel. C'est derrière Marussia que c'est grave.
Dans l'autre classement, Vettel est devant à 40 points, Raikkonen deuxième 31 points, Webber 26, Hamilton 25, il est super bizarre ce classement, Hamilton 25, Massa 22, Alonso 18, Rosberg 12. Chez les constructeurs, Red Bull 66 points, devant à égalité Lotus et Ferrari 40 points, Mercedes 37, Force India 10, et McLaren est à égalité avec Sauber avec 4 points. Ils sont devant en rond.
Ah non, pour Perez, comme s'il n'avait pas changé d'équipe.
On va passer aux faits marquants. Donc, on vous avait demandé la semaine dernière, et vous avez vu, on a été piqué par Lotus.
Oui. Eux aussi, ils font des faits marquants.
Ah, c'est le signe de la gloire de se faire copier. Donc, on vous avait demandé quel était le fait marquant du Grand Prix d'Australie. Vous avez été 140 à voter, merci. En troisième place, 16 votes, les qualifs, sous la pluie l'après-midi, ensoleillé la matinée. Deuxième avec 35 votes, mais où est caché McLaren? Avec 25%, ils sont toujours cachés cette semaine, hein, on les a pas retrouvés. Et 89 votes, en même temps c'est normal, hein, c'est Kimi, c'est toujours un choix gagnant hein, pour l'effet marquant. D'entrée de jeu, Raikkonen à la patate, 63,57%.
Tu vas prendre Kimi cette semaine, j'ai dit.
Je pense pas, mais c'est passé plein de trucs.
On va voir si c'est un choix gagnant. Alors c'est Louis qui commence.
Si on y va pas justement dans l'originalité, c'est Vettel. Après, pour changer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, un truc qui a rien à voir, c'est que le très faible niveau de Gutiérrez. Très faible
c'est
niveau.
C'est vrai qu'il fait un mauvais début de saison.
Vraiment, tu veux pas faire de chiffres, toi. Tu veux pas. C'est une stratégie. ça se défend.
Pour changer.
C'est ton choix. Hein.
C'est te dire à quel point ça me surprend, c'est que j'avais pas préparé une formulation pour Red Bull. J'étais parti sur autre chose.
Tu disais, oui, il va prendre Red Bull.
En disant, ouais, le premier choix, ça va être Red Bull, quoi. Et non, c'est Gutiérrez. carton rouge.
Qu'est-ce qui se passe?
Bah, il y a eu un carton rouge pour Pogba. Deuxième carton jaune.
On perd toujours, là?
Ouais, 1-0. Et on a manqué une occasion de... Enfin, Varane a manqué une occasion devant le but. Sur un corner.
Si vous n'avez pas regardé le match, ou si vous n'avez pas regardé de résumé du match, si vous ne savez même pas quel est le résultat, alors qu'il a lieu depuis 24 heures au moins.
Je ne pourrais pas vous dire si l'équipe de France a bien joué ou pas. Hein, pour le moment, je n'ai pas les commentaires et je regarde le match d'un œil. pas de meilleur, en plus. Donc, voilà. alors Red Bull. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Shinji, tu vas écrire Red Bull Wars 2, 2 points, la guerre des clowns.
Quant à moi, je mettrais bien un truc genre Hamilton se rappelle de McLaren, mais découvre les consignes chez Mercedes.
Ça va juste prendre 3 pages, Shinji. Ça fait un peu... Bon, je veux parler pas mal de trucs.
Oui, mais c'est pour ça me gêne.
3 trucs. Kamet, non, Lewis, c'est 2 stands plus loin.
Ouais, mais si je dois en choisir un des deux, je préfère plutôt me concentrer sur les consignes.
Ah.
Bah oui.
Bah, t'étais bien là, sur le fait qu'il découvre les consignes chez Mercedes.
Ouais, je pense que je vais mettre ça. Donc, quel est l'effet marquant du Grand Prix de Malaisie? Nous vous proposons Hamilton qui découvre les consignes chez Mercedes, le très faible niveau de Gutiérrez, ou bien Red Bull Wars 2, la guerre des clowns. Est-ce qu'ils ont un Yoda chez Red Bull?
Bah oui, Red Bull Marco.
On va passer au concours, Dino.
Ah, avec plaisir.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et donc, on vous rappelle la question que l'on vous proposait la semaine dernière. Michael Schumacher détient la plupart des records sur le circuit de Melbourne. Pourtant, il n'a pas tous les records. Et cette semaine, on est sur un cas, Dino. Un vrai cas. Parce que Rémi, il avait pensé à une réponse qui est bonne. Mais en fait, il y a une autre réponse qui est bonne aussi.
C'est-à-dire
que Rémi, lui, dans ce qu'il nous a envoyé...
Donc notre vainqueur du concours australien.
Donc, il pensait au nombre de meilleurs tours en course, puisqu'en effet, Schumacher l'a eu 3 fois, mais il n'est pas le meilleur, puisque Raikkonen, qui en avait 4, et maintenant il en a 5, ouais. Donc, a le record du nombre de meilleurs tours en course. C'est ce à quoi pensait Rémi. Mais ceux qui nous ont répondu nous ont donné aussi, ça dépend, j'ai même une réponse où il y avait les deux, mais autre réponse possible, puisque Schumacher ne détient pas le record du circuit de la pole le plus rapide. Schumacher a fait son meilleur, sa meilleure pole en 1:24.408 en 2004, mais la pole la plus rapide, c'est Sébastien Vettel en 2011 en 1:23.529.
Ouais.
C'est aussi un record, et c'est aussi un record que Schumacher n'a pas.
Oui, puis c'est vrai qu'on avait classé ça dans les records classiques de la F1, enfin, les records habituels. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé au record du Tour.
Mais c'est aussi un record classique,
Je pense qu'on peut accepter.
C'est un record classique, le record du circuit. Donc oui.
Donc je pense qu'on peut accepter ces réponses, les deux.
Ça aurait été vache.
Qu'ils aient donné les deux ou qu'ils en aient donné qu'une des deux, je pense qu'on peut accepter les deux.
Donc Dino, cette semaine, on a 7.
Oh, putain.
T'as bien choisi ton année.
En fait, on va en accepter que ceux. Donc pour remporter, on le rappelle, c'était un.
Ils ont failli marquer un but.
Désolé. On rappelle que cette semaine, le vainqueur ou la vainqueur va remporter un t-shirt vintage 57 de Caterham.
Parce que 1957, c'est la création de la Lotus 7.
Reprise par Caterham après.
Oui.
Donc voilà, ce sera soit le t-shirt fille, soit le t-shirt garçon. Et pour ça, il faut départager.
Ouais. Dans le mail, j'envoie un mail, pour les coordonnées et tout ça. N'hésitez pas à marquer votre sexe. Non, parce qu'on sait jamais avec les pseudos sur internet et tout ça.
Dites juste si vous êtes homme ou femme.
Voilà.
Ne marquez pas votre sexe. On veut pas plus de détails.
Mais je n'en veux pas plus non plus. Juste celui que vous voulez. Tu es prêt, Dino?
Je suis prêt.
Première question. Quelles sont les couleurs communes au drapeau de la nationalité des écuries dans lesquelles le premier chinois de l'histoire de la F1 a-t-il roulé? T'as compris?
Ouais. Vous avez déjà compris, je suis pas très très fan de cette question.
Qui fut le premier pilote de F1 à réaliser lors d'un même week-end de course la pole position, le meilleur tour en course et la victoire, et sur quelle voiture? En gros, qui a fait le premier hat-trick de la F1?
Ah, c'est pas mal ça.
Ça a l'air bien ça.
Ensuite.
Je suis dit pour savoir Louis a participé ou pas.
Non, je ne vois pas dans les noms, donc.
Ah non, ok, c'est juste pour savoir.
Ensuite, sur les 19 Grands Prix disputés cette année, quel est le pourcentage de circuits sur lequel Mark Webber a déjà connu un problème de Kers? Je précise, un problème de Kers, hein, pas un problème de Sébastien Vettel, c'est autre chose. Donc, problème de Kers, que ce soit en essai libre, qualif ou course.
Ça, c'est... Ouais.
À l'époque, ils ont du temps, hein. Ils ont 3 semaines.
Compliqué, ça.
Ensuite, lors de quelle course Fernando Alonso a-t-il commis son unique départ anticipé en Formule 1?
Là, pour le coup, c'est trop facile.
Ouais.
Ensuite, Felipe Massa et Fernando Alonso pilotent cette année une Ferrari F138. Mais pourquoi s'appelle-t-elle F138? En gros, l'explication du...
Aucune idée.
Ensuite, avant-dernière question. Parmi les tracés présents au calendrier 2013 de la F1, combien de records du Tour ne sont pas détenus par Juan Pablo Montoya?
Ouais.
Et enfin, la dernière.
Il en reste une, merde. Ça a l'intérêt d'être bonne.
La couleur dominante de Caterham étant le vert, je ne peux que penser à l'Irlande et à la Saint-Patrick. C'était il y a une dizaine de jours, il me semble. Mais au fait, combien de pilotes irlandais ou nord-irlandais ont pris le départ du Grand Prix de Malaisie depuis son apparition au championnat du monde de Formule 1?
Alors déjà, problème de Kers, j'évacue parce que c'est trop compliqué et voilà. Départ anticipé d'Alonso, c'est trop simple, c'est le Grand Prix de Chine il y a 2 ans.
2010.
Je crois. Ouais, en 2010. Pourquoi F138 ça me semble pas F138. F138 c'est parce que c'est 13 l'année 2013 et 8 c'est pour le V8, c'est la dernière année du V8.
C'est bien parce que tu les dégages et en plus tu dis les réponses.
Voilà, donc ça ça là on peut l'écarter. Montoya qui se rappelle de lui, donc non. La dernière, c'est les pilotes irlandais. Grand Prix de Malaisie. Oui. C'est tiré par les cheveux.
Qu'ils soient de République d'Irlande ou d'Irlande du Nord.
Ouais, c'est trop tiré par les cheveux. C'est...
Tu sais qu'il faut que t'en choisisses au moins une, hein.
Ouais. Eh ben, j'étais pas chaud au début. Mais en fait, celle sur les drapeaux me plaît bien.
Oh, ben dis donc.
Parce que là, pour le coup, il y a de la recherche à faire. Voilà, il y a quelques petites recherches à faire. Et puis c'est en lien en plus avec la Chine. Donc, c'est pas systématique. On vous demande pas tout le temps qu'il y ait un lien. Mais là, il y en a un. Donc, je vais prendre cette question-là, je te dis.
Eh bien, félicitations à Adelin.
Bravo, Adelin. Tu as remporté donc probablement, je pense, le t-shirt homme. Mais si tu veux le t-shirt femme pour l'offrir à quelqu'un de ton entourage,
Adeline, de toute façon j'ai déjà ton adresse. Je t'enverrai un mail pour que tu m'envoies les coordonnées, la taille, le modèle, parce que après tout, on sait jamais, il veut peut-être offrir un t-shirt. Donc on va remercier quand même Thibaut qui nous avait posé la question sur le premier hat-trick. Alors, lui avait noté Juan Manuel Fangio sur une Alfa Romeo 158. Alors, il en a fait un à Monaco en 1950, mais il me semble, parce que je crois que j'avais regardé sur StatF1, que Farina, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui était le Grand Prix juste avant et qui est le premier Grand Prix de F1, en a fait un aussi. Mais c'était aussi sur une Alfa.
En plus, à l'époque, il y avait un bonus, non, pour le meilleur tour à la victoire, enfin, pour le meilleur tour à la pole.
C'était aussi, je crois, sur une Alfa Romeo 150. On remercie Lio qui nous a posé la question sur Mark Webber et ses problèmes de Kers. Donc sur les 19 grands prix disputés, quel est le pourcentage de circuits sur lesquels Mark Webber a déjà connu un problème de Kers? C'est 52,6 quand même, soit 10 sur 19. Australie, Malaisie, Chine, Monaco, Canada, Hongrie, Italie, Inde, Abu Dhabi et États-Unis. Comme si Sébastien Vettel lui c'était pas déjà un problème.
Alors, je dois dire que celle-là était intéressante, mais alors c'est pas tant pour vous, c'est juste nous, ça nous, parce que quand même faut qu'on vérifie à chaque fois quand même les réponses. Et pour le coup, ça nous a, moi ça me faisait un peu chier de devoir vérifier tout ça.
On remercie Steve qui avait posé la question sur le départ anticipé d'Alonso. En effet, c'était le Grand Prix de Chine 2010. Donc l'explication sur F138, tu l'as dit, hein, F pour Ferrari, 13 pour 2013, 8 pour la dernière année des V8. Mais c'est bien, j'aime bien ça que Ferrari ne fasse pas tous les ans forcément l'année plus, enfin F plus l'année. De temps en temps, ils font.
Bah la première année du V8, ça avait été la F248, oui. Parce que c'était la F.
Bah, on se souvient, il y a eu la F60, la F150, qui étaient aussi des noms un petit peu spéciaux. Qui sait, peut-être que l'an prochain, on aura un 160.
Ah bah la F600 quelque.
166T. 1.6 V6 turbo, faudra bien mettre un petit T quelque part. ensuite, il y avait Quentin qui avait posé la question donc sur Juan Pablo Montoya. Donc, il ne détient pas 17 records du tour, puisqu'il détient, en fait, le truc, c'est qu'il détient 2 records du tour en Malaisie et au Brésil. Il faut dire que les voitures étaient un petit peu plus puissantes à l'époque. Et on avait enfin la réponse à la question de Kevin, donc qui était la question sur Caterham, le Vert et donc l'Irlande. Et il y avait deux pilotes, Eddie Irvine de 99 à 2002. Et l'Irlandais du Nord, et Ralph Firman en 2003.
Ouais,
Firman.
Et donc, déjà, on va rappeler la question, parce qu'elle est un petit peu compliquée, donc c'est pas plus mal.
Oui, rappelons-la bien. Vous avez 3 semaines pour y répondre. Hein,
quelles sont les couleurs communes au drapeau de la nationalité des équipes dans lesquelles le premier Chinois de l'histoire de la F1 a roulé?
Vous avez pour répondre
roulé en Grand Prix,
16 avril.
Bien, le premier qui a roulé en Grand Prix. C'était pas en course.
Ah oui, rouler en Formule 1,
oui,
alors un week-end
de
Formule 1.
Grand Prix dans le sens week-end.
Okay.
Et qu'est-ce qu'on va offrir cette semaine, Dino?
Il me semble que tu avais une idée assez ingénieuse, Shinji.
Parce qu'on est encore un petit peu sur la Malaisie, donc vu qu'on a fait Caterham, j'ai cherché... Alors, elle n'est pas malaisienne, mais elle a roulé un petit peu à domicile. C'est Mercedes.
Bah, elle a roulé dans le Grand Prix.
Son sponsor quand même principal est Petronas. Et pour changer des vêtements, parce qu'on va pas tout le temps vous offrir des fringues, j'ai pensé à une clé USB, mais attention, une clé USB officielle Mercedes F1 qui a une forme de clé à molette, hein, et c'est une clé USB 8 Go.
Donc on rappelle, hein, pour participer, c'est concours@savf1.fr. Vous répondez donc à la question posée par Shinji. Vous avez donc jusqu'au, si je me trompe pas, c'est le 16 avril 19h, donc c'est le mardi après le Grand Prix de Chine. Voilà, vous pensez à nous joindre une question pour qu'on puisse vous départager
sur
la réponse. Voilà, sur la F1, ou là il y a pas de thème en particulier. On mettra un thème pour
Bahreïn. Oui, mais Bahreïn, c'est normal.
Voilà.
Il y a besoin de mettre un thème. Donc voilà, vous avez 3 semaines et vous gagnerez peut-être une clé USB, ce qui vous permettra minimum de ne pas oublier les consignes, puisqu'elles sont dedans.
Voilà.
Et on va se tourner vers le prochain Grand Prix, on l'a dit, ça va être le Grand Prix de Chine. Et bah, comme d'habitude, quels sont vos pronostics?
Vettel, dès qu'il veut dépasser, voilà, c'est facile.
Bah, tu sais quoi, moi je vais redire Alonso, parce qu'il y a bien, faut que ça passe, il y a un moment, faut que, voilà, il va bien quand même gagner avec cette voiture. Et je pense que ça sera rapidement, donc... Ouais, Alonso.
Moi, je pense que justement, les Red Bull, ils vont pas être au mieux de leur forme, justement, à cause de l'incident qui s'est passé le week-end dernier. Si la Mercedes est bien, Je vois bien Rosberg qui a toujours été très très bon sur circuit gagner. Lui ou Hamilton en tout cas, et Mercedes.
Alors, en plus c'est un circuit qui fait généralement assez entre guillemets
ouais,
frais,
froid,
donc ça peut aider Mercedes. Et peut-être même Red Bull. Hein. Enfin après, il faudra surmonter les éventuels problèmes internes, mais. La question c'est est-ce que si Hamilton est premier et que Rosberg est deuxième,
est-ce qu'il va la rendre?
Voilà.
Et avant de se quitter, on ne va pas oublier le petit défi de l'invité, Dino.
Oui.
Qui est toujours le même que celui de la semaine dernière. Hein.
Oui, le défi, Louis, c'est que tu nous donnes 7 trucs à faire pour un total de 40 euros tout rond.
Oui, ouais, c'est ça. Ouais. La semaine dernière, c'était la fête foraine. Et bon, un dimanche après-midi pour 40 euros, moi personnellement, je vous conseillerais, les gens qui n'aiment pas la F1, d'aller au cinéma. Et comme vous êtes un seigneur, bah, vous payez la place pour vos deux copains. Donc 7,50€ la place. Oui, c'est cher. Ça fait 22,50€. Et comme vous êtes gourmand également, vous allez prendre un petit peu à boire et à manger. Donc ce que je vous conseille personnellement, c'est des Malteser, un petit paquet de 200 grammes, très bon. Ça vous donne soif par contre. Donc c'est 4€ le paquet, donc 4 fois 3, 12, 34,50€. Et donc comme ça donne très soif, bah, au lieu d'acheter le coca au supermarché parce qu'il coûte 3,50€ et c'est franchement c'est volé. Ou ce que vous allez faire, c'est vous allez au champion d'à côté, vous achetez 3 bouteilles de coca 50 centilitres, coca light, coca, comme vous voulez, c'est votre choix, pour 4,50€. Ce qui nous fait 39€, il reste 1€. Et en rentrant du cinéma, comme à la maison il n'y a plus de pain, ben on prend la petite baguette, toujours utile, en bon français, mais on se la mange dans la soupe, on la trempe dedans.
Alors ça, classique. Ça nous fait que 4 trucs.
Et il en faut plus.
Il en faut 7.
Ah merde.
Donc comme t'as déjà dépensé tout ton pognon, il faut que tu trouves 3 trucs gratuits à faire.
Eh ben, à Bordeaux, 3 trucs gratuits à faire. Je vais au miroir d'eau, un truc très touristique où de la fumée sort d'un genre de miroir. C'est super génial, c'est drôle, c'est familial et c'est pour tous les âges. Donc ça fait 5. Après, après avoir mangé tout ça, ben, je suis un petit peu ballonné. Eh ben, je vais faire un petit footing pour tout dégraisser. Un quart d'heure, 20
minutes.
C'est
gratuit. Ça fait chier, mais c'est gratuit.
Et ce que je fais après, ben, comme c'est le soir et que le chien a besoin de sa petite promenade, eh ben, je vais promener le chien et je ramasse ses excréments et je fais je donne un service à la société en le mettant à la poubelle et ne
le sors pas
avec
dans
la
rue.
Avec un sac exprès.
Ce sac tu l'as acheté?
Non, c'est gratuit.
Ah, c'est gratuit? Parfait. je préfère vérifier. Il suffirait qu'on ait des plaintes après en nous disant, ouais, ça a dépassé les 40 euros et compagnie.
Un petit dimanche après-midi sympa, en famille, entre potes.
Voilà, tout ça pour finir seul dans la rue à ramasser les merdes de ton chien. La vie est géniale.
Bravo!
Merci,
oui. Ouais. Donc attention, hein, le prochain, c'est Rémi d'ailleurs, je crois, le prochain, qui vient pour le Grand Prix de Chine. Donc attention Rémi, il faudra nous trouver 7 trucs pour 40 euros. Mais bien sûr, il ne faudra pas faire pareil.
Et là maintenant, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Merci Louis de nous avoir accompagnés.
Mais merci beaucoup à vous.
Hein. On vous rappelle, comme toutes les semaines, que le podcast SAV de la F1, c'est sur Podcast France, sur iTunes, sur Pod Radio, qu'on est présent sur Facebook. Oui, on a un groupe Facebook, qu'on est présent sur Twitter avec le hashtag SAVF1. Oui, je ne le dirai pas toutes les semaines.
Ah, vas-y.
Non,
dis-le,
non, non, pas nous. Cette semaine. Pas cette semaine. Comme d'habitude, la F1 sur Internet, c'est sur...
LF1.com, bien sûr.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
La famille, c'est gratuit.
Oui aussi, c'est aussi le rythme
des
podcasts.
C'est la famille, c'est gratuit.
Ça dépend.
On en profite quand même pour vous rappeler qu'il y a toujours le répondeur qui est en marche. Voilà, on a déjà reçu quelques petits messages, mais n'hésitez pas à nous en reposer. Donc pour ça, vous avez le lien dans l'article sur fanf1.com, l'article du SAV du Grand Prix de Malaisie 2013. Et sinon, vous allez sur savf1.fr et là, vous aurez sur le côté, laissez-nous un message, vous cliquez et il suffit juste un petit micro et compagnie. Vous pouvez toujours nous envoyer un mail via répondeur@savf1.fr. On ne fait pas de ségrégation anti-audio. Voilà. Et sinon aussi sur savf1.fr, vous pouvez accéder à nos différents comptes Twitter, les nôtres, à Shinji à moi, mais aussi à tous ceux de l'équipe. Et de manière générale, on utilise le hashtag SAVF1, ainsi que le hashtag TopApposition pour le concours TopApposition, pour vous rappeler vite fait de participer au concours.
C'est à peu près tout, mais vous le savez, on se quitte toujours sur une petite note particulière, n'est-ce pas,
oui.
Dino?
C'est un problème malais cette semaine. J'hésite. Pif paf pouf, ce sera toi que je dirai dans le SAV. Mais non, en fait, j'ai pas envie parce que je préfère l'autre, donc tout ça, ça sert à rien. Donc, je te choisis toi.
Bravo. C'est très clair.
La calme sagesse est une épouse fidèle. La précipitation est une prostituée. And it's lights out.